Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
6h57 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à tous. Nous sommes le vendredi 26 juin et c'est le début de la fin, peut-être le début de la fin. 11 départements de l'Ouest qui sortent de la vigilance rouge, des températures qui commencent légèrement à baisser. On va revenir donc évidemment sur les conséquences, parce que si on voit le bout du tunnel côté température, eh bien du côté de nos organismes, ils souffrent et ils souffrent encore. Les hôpitaux sont saturés, les médecins alertent, les appels au SAMU explosent. À 8h30 sur RMC et BFM TV, je reçois le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et député LR Philippe Juvin. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé cette canicule? Je vous pose aussi la question à vous au 32-16. Appelez-nous pour en discuter, pour témoigner. Et puis vous pourrez aussi écouter le débat, c'est vendredi, entre la voix de droite et la voix de gauche, Cécile Duflot et Charles Consigny, qui débattront donc à 7h50 dans ce studio. N'hésitez pas à leur donner des arguments. Et puis on va s'intéresser aussi au match des Bleus ce soir, 21h sur RMC France-Norvège. Dernier match de poule pour les tricolores. Nous serons avec Éric Dimeco évidemment à 7h40. Et puis votre pouvoir d'achat sur RMC. On continue à faire bien la prime de match comme chaque jour. Et alors elle devient énorme. N'oubliez pas ce chiffre, 58 000 euros. 58 000 euros, retenez bien ce chiffre parce qu'il est pour vous. Si vous vous inscrivez, que vous êtes tiré au sort, il y aura une alerte d'ici 9h et un tirage au sort aujourd'hui même à 15h. Donc d'ici 15h, je ne sais pas exactement à quel moment d'ailleurs, ça peut tomber à tout moment. Restez bien attentifs et merci d'écouter RMC. Il est 6h59, dans un instant le journal, mais d'abord la météo. Géraldine, les toutes premières baisses de température.
Ah, ça y est, ça commence vers l'Atlantique, ça se voit d'ailleurs dans la vigilance. Alors on a encore 61 départements en vigilance rouge canicule, 22 en orange, mais à noter quand même que la Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère sont repassés en jaune. Parce que oui, effectivement, ces températures qui vont commencer à baisser. 26 degrés à Brest cet après-midi, alors qu'on avait 39 hier, mais on aura encore 35 à Marseille, 36 à Lille, à Bordeaux, 38 à Paris, on aura encore 39 à Lyon, jusqu'à 41 degrés à Clermont-Ferrand, à Nancy, quelques orages possibles ce soir, notamment du côté de la Normandie. La nuit prochaine, les températures vont quand même rester étouffantes hein, sur la majeure partie du pays. Demain, ce sera la dernière journée de très grosse chaleur, on aura encore 40 degrés hein, qui pourront être atteints sur le nord-est, mais dimanche, on va commencer enfin à mieux respirer et normalement, au milieu de semaine prochaine, on devrait voir la fin de cette vague de chaleur.
Il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Alcool interdit sur la voie publique dès midi à Paris. Possible annulation d'événements festifs, réaction des autorités en pleine canicule face à des hôpitaux parisiens saturés. À Narbonne, l'adolescent de 17 ans, lynché à mort, avait déjà dénoncé des faits de violence à son encontre une semaine avant sa mort, signalé à la gendarmerie. Il avait pourtant refusé de porter plainte. Et la première place dans le viseur des Bleus face à la Norvège ce soir, Coupe du Monde. La Norvège est son cyborg buteur Erling Haaland.
Les hôpitaux en surchauffe au bord de la rupture.
Face à une vague de chaleur inédite, les appels au SAMU se multiplient partout. Les services d'urgence tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement a donc activé hier le niveau 3 du plan Orsan. C'est le plus haut niveau du dispositif visant à réorganiser les systèmes de santé face à une situation sanitaire qui se dégrade de jour en jour. 25 arrêts cardiaques ont été recensés mercredi à Paris contre moins de 10 habituellement. Et la préfecture a mis les courtés de prendre de nouvelles mesures drastiques dans la capitale.
Le préfet de police décrit une situation inquiétante à Paris avec des températures exceptionnelles. Les sapeurs-pompiers doublent leurs interventions. Les hôpitaux sont saturés.
Mon devoir, c'est de faire en sorte que la pression baisse et en tout cas que nous n'allons pas vers des suraccidents, voire des morts par incapacité de prendre en charge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
D'où ces restrictions sur la consommation d'alcool et l'annulation possible de la marche des fiertés pour Anouk Véret, organisatrice de la manifestation.
Ça sera une catastrophe. On met tout en œuvre, tout ce qu'on nous a demandé pour justement maintenir cette manifestation.
Environ 500 000 personnes doivent marcher demain à Paris alors qu'on annonce 40 degrés.
Là, on aura un deuxième camion citerne en plus sur la marche. Un pour vraiment brumiser tout le monde et l'autre pour remplir les gourdes. Nous avons aussi nos secouristes. Donc au début, nous avions 8 véhicules de secours qui sont montés à 13 ambulances pour pas engorger les urgences.
Le festival Solidays, qui débute aujourd'hui jusqu'à dimanche, pourrait lui aussi être annulé, prévient le préfet de police de Paris.
Et notez qu'à Lyon, la marche des fiertés également prévue ce week-end est annulée, reportée à septembre. Dans ce contexte de forte chaleur, le gouvernement a demandé aux facteurs d'assurer un soutien, de sonner aux portes des populations fragiles. L'impréparation de l'État face au changement climatique pointé du doigt depuis le début de l'épisode. Emmanuel Macron est particulièrement ciblé. Alors le chef de l'État a tenté d'apporter une réponse hier et de se dédouaner de toute responsabilité.
Nous vivons, il faut avoir l'humilité de le regarder, une période totalement inédite. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire.
Et de l'adaptabilité, il en faut pour des millions de Français impactés depuis plus d'une semaine par la chaleur, comme ceux qui étaient privés d'électricité hier soir. 50 000 foyers sans courant dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine ou encore en Gironde. Ceux qui n'ont plus d'eau potable en raison d'une surconsommation, de l'adaptabilité. Il en faudra aussi pour les 850 000 collégiens qui vont présenter ce matin le brevet. Ça débute par les épreuves de français malgré une demande de report réclamée par des syndicats d'enseignants qui lancent un appel à la grève pour dénoncer des conditions de travail inacceptables en cette période de forte chaleur. Jean-Rémy Girard est président du SNALC.
On se retrouve dans des situations où collègues comme élèves ne sont pas en capacité d'être dans des salles de classe. À un moment, il faut quand même taper du poing sur la table pour qu'on obtienne des conditions un minimum correctes. On est responsable des enfants que l'on accueille. Nous, ce que l'on craint, c'est qu'on ait des élèves qui fassent des malaises, des élèves qui vomissent, qui saignent du nez, qui soient juste pas capables, en fait, de passer l'épreuve correctement.
Et une canicule historique qui n'est pas encore terminée. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. 11 départements ont tout de même été rétrogradés en vigilance orange hier soir. 13 autres le seront demain. L'émotion toujours très vive à Narbonne, près d'une semaine après le lynchage à mort d'un jeune adolescent de 17 ans. Louis, retrouvé sans vie samedi matin sur un chantier. Son agression a été filmée, relayée sur les réseaux sociaux. Scène extrêmement violente. Dans ce dossier, 5 jeunes hommes, dont 3 mineurs, ont été interpellés. Et si leur mobile reste inconnu, on en sait plus, Romain Houck, sur le profil et celui de la victime.
Oui, on apprend notamment que Louis s'est rendu dans une gendarmerie du Tarn le 12 juin dernier pour dénoncer des faits de violence en réunion qui lui ont valu une hospitalisation. Nous sommes une semaine avant son agression ultra-violente, mais le jeune homme refuse de déposer plainte malgré l'incitation des gendarmes. On sait désormais également que Louis était accueilli provisoirement dans un foyer de Narbonne après que ses parents se sont tournés vers l'aide sociale à l'enfance. Point commun avec 3 de ses agresseurs placés eux aussi en foyer, même si aucun n'était accueilli dans la même structure que Louis. Selon nos informations, l'un des mis en cause s'est d'ailleurs vanté d'avoir lynché le jeune homme à son retour dans son foyer, vidéo à l'appui, ce qui lui a valu d'être dénoncé par l'un des pensionnaires qui a prévenu la police.
Et cette ultra-violence et même cette manière de s'être mis en scène dans l'assassinat de leur propre, je ne sais pas si c'était un camarade, mais en tout cas du même âge, c'est évidemment ce qui interroge et ce qui écœure. Juste après le journal de Thibaut Texer, je recevrai dans ce studio un éducateur spécialisé qui s'occupe des jeunes et qui le constate, il nous le dira. Poser un cadre aux jeunes devient de plus en plus compliqué.
À retenir également le procès en appel de Stéphane Plaza, condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis. L'ancienne star d'M6 est rejugée ce matin pour violence conjugale. Édouard Philippe s'est invité dans le Salon des Français. Hier soir, près d'un millier de foyers à travers le pays ont pu échanger avec le candidat à la présidentielle depuis sa ville du Havre. Une réunion d'appartements simultanée en visioconférence avec l'objectif de convaincre des participants non encartés chez Horizon pour RMC. Romain Cluzel s'est invité dans l'une de ces réunions.
Autour du maire de Palaiseau, Grégoire de Lastéry.
Il y a un buffet, il y a de quoi boire un coup, il y a de quoi manger.
Bière à la main et plateau de fromage, la demi-douzaine de personnes invitées s'installent face au rétroprojecteur. Édouard Philippe apparaît, chemise ouverte et manches retroussées. Le candidat se prête à distance au jeu des questions-réponses. Les sujets s'enchaînent, référendum, environnement ou encore immigration.
On va continuer à avoir besoin d'immigration. Les gens qui vous racontent la fable de l'immigration zéro, ils vous racontent des cracks.
Le ton se veut relâché. L'ancien Premier ministre fait aussi parfois son mea culpa sur certaines de ses décisions, comme le 80 km/h.
Si je devais le refaire, je le ferais autrement. Ceux qui se trompent pas, c'est ceux qui font jamais rien. Alors ceux-là, ils ne se trompent jamais.
À l'issue, les participants sont plutôt séduits par le format.
Ça donne une image du candidat qui est totalement différente de celle que j'avais avant.
Le mot qui m'est venu spontanément, c'est pragmatisme.
Mais comme la plupart des invités, Anne n'est pas encore convaincue, notamment parce que les propositions d'Édouard Philippe manquent de précision, par exemple sur la justice.
On n'est pas sorti un peu dépensif sur le sujet.
Édouard Philippe compte renouveler l'exercice à la rentrée avec cette fois-ci une thématique précise.
235 morts au Venezuela. Le bilan s'alourdit après les deux violents séismes qui ont frappé le pays. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Près de 160 personnes sont toujours portées disparues. 1500 personnes ont été blessées. Jour de match pour les Bleus.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Déjà qualifiés, les Bleus veulent rester premiers de leur groupe. Pour garder la tête, il faut un match nul à minima face à la Norvège. Erling Haaland, ce soir, 21h sur RMC, troisième et dernier match de la poule. Arthur Perrault, vous êtes en direct de Boston ce matin pour RMC aux États-Unis à quelques heures du coup d'envoi de ce match singulier pour les Bleus sans Didier Deschamps.
Oui, contre la Norvège, les Bleus vont vivre une soirée particulière. Didier Deschamps ne sera pas sur le banc. Le sélectionneur, endeuillé par le décès de sa mère, assiste aujourd'hui à ses obsèques en France, à Boston. C'est son fidèle adjoint, Guy Stéphan, qui dirigera l'équipe. Mais rien n'a été laissé au hasard depuis mardi. Et l'annonce de cette triste nouvelle, les deux hommes échangent chaque jour pour affiner le plan de match. Composition, gestion des temps faibles, changement en cours de rencontre. Tout a été préparé dans les moindres détails. Guy Stéphan l'a reconnu hier, il ne se sent pas vraiment à sa place sur le banc, lui qui préfère accompagner les joueurs au plus près sur le terrain d'entraînement. Pour cette soirée particulière, les Bleus pourront compter sur le soutien de près de 4000 supporters français. Les familles seront également présentes avant un dîner organisé en toute discrétion au camp de base de l'équipe de France en plein centre-ville de Boston.
Arthur Perrault, envoyé spécial à Boston pour RMC. On vous retrouvera ce soir pour cette rencontre. France-Norvège, 21h. Cette nuit, l'Australie a validé son billet pour les 16e de finale dans le groupe des États-Unis. Déjà qualifié, on retrouvera aussi l'Équateur, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Qualification aussi des Pays-Bas qui seront opposés en 16e de finale au Maroc. Le Japon sera opposé au Brésil.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 et il y a Dominique qui nous appelle de Haute-Garonne. Vous êtes à Gagnac-sur-Garonne. Bonjour Dominique.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Dominique? Vous n'avez pas trop chaud?
Ça va. Je crois qu'il fait 25-26, mais ça va. Mais bon. C'est très bien pour...
Il y a quand même des élèves là qui se préparent à aller au brevet, à passer le brevet. Ça vous paraît jouable ça?
Mais bien sûr, tout à fait. Pour moi, c'est jouable dans le sens, si on s'organise, c'est toujours pareil. On sait qu'il y a des fortes températures, on s'organise un peu avant. Peut-être qu'on dédouble les classes, on rappelle des profs en dédoublant des classes, en venant plus tôt. On choisit les classes, je veux dire, les moins exposées au soleil. Il y a plein de choses à faire. Mais quand j'entends, entre guillemets, la personne syndicaliste ce matin, ben je comprends.
Qui demandait à annuler purement et simplement le brevet et à le reporter à la semaine prochaine.
Mais bien sûr, mais la semaine prochaine, il fera aussi chaud.
Et ben,
peut-être un peu moins, mais à ce monsieur, je lui dis, ben, organisez-vous, allez dans les salles de bibliothèque, mettez 4-5 élèves, mettez de l'eau, rappelez des profs, venez à...
Une histoire de rappeler des profs, où vous avez pas tort Dominique, c'est que c'est une période effectivement où normalement il y a quand même un certain nombre d'élèves qui n'ont pas cours, alors précisément parce que d'autres profs sont chargés de surveiller. Pour surveiller, si on voulait les étaler dans plus de classes, il faudrait plus de profs effectivement pour surveiller. Mais en tout cas pour vous, c'est pas choquant de faire passer le brevet dans ces conditions aujourd'hui?
Pas du tout.
On se débrouille. Merci beaucoup Dominique d'avoir réagi ce matin. Bonne journée, bon courage. Il est 7h10 sur RMC. Louis avait 17 ans. Il a été tabassé il y a quelques jours, laissé pour mort sur un chantier. Les auteurs présumés de l'agression, 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen. Ils s'étaient eux-mêmes filmés, presque comme s'ils avaient un trophée filmé autour du corps agonisant du jeune Louis. Une barbarie pure et simple. Voilà ce que dit ce matin la tante de Louis. Bonjour Reda Didi.
Bonjour.
Vous avez été éducateur spécialisé, vous intervenez désormais sur les politiques de prévention. Vous connaissez bien la question des jeunes. Le mobile du crime reste inconnu, c'est ce qu'a dit hier le procureur de Narbonne. Il a exclu la piste raciale, on ne sait pas pour l'instant comment tout ça s'est joué. Mais pour vous, et vous le constatez, poser un cadre aux jeunes devient de plus en plus compliqué. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant, 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 5 jeunes, dont 3 mineurs, en garde à vue après la mort de Louis, 17 ans, tabassé à mort à Narbonne. Une barbarie pure et simple, voilà les mots de la tante de Louis. Reda Didi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous avez été éducateur spécialisé, vous intervenez aujourd'hui sur les politiques de prévention, sur les relations entre les jeunes et la police, sur les RICS. Louis, il était accueilli par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Plusieurs de ces bourreaux présumés, également 3 sur 5, étaient eux-mêmes des enfants placés en foyer. Et vous nous le dites ce matin, poser un cadre à ces jeunes ultra-violents devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que vous constatez ?
On le constate un petit peu partout. D'abord, poser un cadre sur un jeune aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. Mais sur ces jeunes qui sont à l'ASE, qui n'ont pas demandé à être là, qui sont placés parce que finalement il y a un gros problème de cadre vraisemblablement. Là, la maman, les parents de Louis vraisemblablement ont dealé pour qu'ils puissent être accueillis à l'ASE.
On découvre qu'il est possible de placer volontairement son enfant à l'ASE. C'était semble-t-il le cas pour 3 mois parce qu'il le trouvait compliqué à gérer, semble-t-il, déscolarisé, et donc envoyé pour un délai particulier auprès de l'aide sociale à l'enfance.
C'est ça, et toute la difficulté quand on est éducateur dans ce milieu-là, et je l'ai été à l'ASE sur l'accueil d'urgence à Villepinte, c'est que quand vous avez des gamins et plusieurs gamins qui sont comme ça en recherche de cadre, où le cadre est totalement déstructuré, je ne connais pas le passif des jeunes dont on parle là, mais moi les gamins dont j'avais la charge, c'était vous devez les coucher, le père vient de tuer la mère, ou la mère est morte en overdose, il y avait des gens
qui ont vécu des drames absolus.
C'était des grosses charges.
Comment on fait ?
C'est très compliqué, c'est très difficile d'abord de poser un cadre sur ces jeunes-là, de faire vivre des jeunes qui n'ont pas demandé à vivre ensemble, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été placés dans une maison sous le même toit, parfois dans les mêmes chambres, sans avoir demandé à être là, et puis avec une charge émotionnelle, des difficultés très très importantes et très lourdes.
Mais comment est-ce possible que l'ASE n'ait pas, c'est-à-dire l'aide, il y a le mot aide sociale à l'enfance, oui. Et en effet, on découvre jour après jour que des jeunes, des enfants, des même très jeunes parfois, ne sont pas en réalité aidés.
Ils sont aidés, et puis ensuite après vous avez charge à chaque éducateur ou l'équipe éducative qui est en place là de mettre en place la pédagogie qui va bien, mais aujourd'hui vous savez bien que le métier d'éducateur est un métier pénurique, qu'on a de plus en plus de mal à recruter, voilà, que plus, enfin à peu près la moitié ne sont pas diplômés, peut-être pas assez bien formés sur le sujet, et puis malgré tout on a une génération qui est différente des générations précédentes et qui demande peut-être une façon différente de les aborder.
Une façon différente de les aborder parce que cette génération, effectivement, et c'est ce qui frappe, elle est dans un rapport à la violence qui semble totalement désinhibé. Ce qui est évidemment vertigineux et abominable dans cette histoire, c'est que non seulement Louis a été tabassé à mort, laissé à l'abandon sur un chantier agonisant, mais les 5 jeunes, dont 3 mineurs, qui sont soupçonnés d'avoir commis des faits, se sont filmés le tabassant, filmés ensuite comme presque un trophée. On a l'impression de chasseurs à côté d'un trophée dans un safari. Et puis ensuite, un autre film qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux où on les voit ayant quitté la scène du crime dans un train, j'ai envie de dire presque tapant la converse, comme si de rien n'était, de manière détendue. L'un des jeunes arrivant dans son propre foyer s'est vanté d'avoir tabassé quasi à mort, puisqu'il l'a laissé mourant, un autre jeune. Ce rapport à la violence, comme si c'était banal, comme si ça n'était pas grave.
Mais de dehors, c'est des images insoutenables, hein, vraiment.
Elles sont insoutenables, et on a fait le choix, d'ailleurs, je le précise, sur RMC et RMC Story ce matin, de ne pas les diffuser.
Ensuite, on ajoute l'ignominie et l'horreur à tout ça. On a des jeunes qui ne comprennent pas conscience de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ne sont pas encore au courant de ce qui s'est passé.
Mais pourquoi,
de la
parce
fin.
Qu'ils sont si confrontés à la violence qu'elle parce, devient banale.
En fait, la violence, on pourrait dire dans notre société depuis une trentaine d'années, d'après différentes études, que la violence a baissé. Par contre, quand il y a la violence, c'est de l'ultra-violence. Voilà, c'est de la violence qui va très très loin. C'est de la violence qui n'a pas de limite. C'est de la violence qui est totalement désinhibée et qui peut aller jusqu'à la mort d'un jeune là. Mais dans d'autres affaires, on a pu le voir précédemment, les jeunes aujourd'hui vont au bout, mais pas que les jeunes d'ailleurs. Hein. Quand on a de la violence aujourd'hui dans notre société, c'est de l'ultra-violence.
Elle devient tout de suite ultra-violente.
Elle est très très forte.
Il n'y a pas de mesure.
Aiguë, elle est,
il
n'y
a pas de gradation.
Non, il n'y a pas de gradation. Il n'y a plus de gradation. On n'a plus de limite. Il n'y a plus ce cadre. Il n'y a plus plus cette limite qui nous permet finalement de regarder avec un peu plus d'humanité l'autre quand on est dans cette position.
Qu'est-ce que
et dans
vous pouvez dire, vous qui parfois vous retrouvez face à des rixes où il faut réussir à séparer effectivement les deux parties, qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin? Est-ce qu'il y a quand même espoir? Est-ce qu'il y a un moyen de réussir à déconnecter ou débrancher cette violence?
Ben, quand on crée des espaces de dialogue, les jeunes comprennent très vite, et ce qu'on essaie de leur raconter, c'est la suite. C'est-à-dire que vous allez faire un mouvement, vous allez prendre un coup de sang, il va y avoir une bagarre, éventuellement un accident et un mort, voilà ce qui va vous arriver dans la vie, voilà quelles vont être les conséquences pour vous, pour votre famille, pour les perceptions, voilà aussi quelle image vous donnez à la société aujourd'hui de ce qui est votre jeunesse, et ça va avoir des conséquences sur votre avenir et sur l'avenir de notre société. Ça marche assez bien quand on les a de façon posée, organisée, et puis avec des activités j'allais dire pas de consommation mais de création de façon un peu maligne et intelligente. Nous on le fait bien, on crée des BD avec eux et autres, et on voit bien que ceux-là ne tomberont pas là-dedans. Par contre, quand ils sont pas passés par des courses foudines de ce type-là, c'est beaucoup plus compliqué de prendre conscience de tout ça, notamment quand on a un cadre qui est totalement déstructuré. Il y a plus de cadre, c'est-à-dire qu'il y a plus, vous avez plus d'adultes autour d'eux qui sont en capacité réelle de faire respecter le cadre
et qu'il y ait des limites et qu'il y ait effectivement un moment où ça s'arrête. Merci Reda Didi, en tout cas, d'avoir partagé ce matin votre réflexion et votre témoignage. Vous êtes aujourd'hui spécialiste des politiques de prévention et vous avez écrit « La sécurité, notre bien commun ». C'est aux éditions de l'Aube. Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
On remonte le temps avec vous chaque matin et on découvre un titre posthume de Johnny.
Et comme toi, il y en a plus.
Et oui, ça s'appelle « Dès comme toi, il y en a plus ». Un message de Johnny à sa compagne de l'époque. Un titre enregistré il y a 53 ans. Les titres posthumes, Apolline, parfois, ça devient des tubes.
Vous nous le dites dans un instant. Je vous redonne également l'invité du face-à-face. Ce sera le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Par ailleurs, député LR, le professeur Philippe Juvin. Face à la canicule, les hôpitaux sont saturés. Il nous le dira donc à 8h30. Vous êtes bien sur RMC, 7h22. On se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Et aujourd'hui, cette nuit même précisément, on a redécouvert une chanson inédite de Johnny.
Et ça s'appelle « Dès comme toi, il n'y en a plus ». Alors, à l'origine, Johnny l'avait enregistré en 1973. C'est un titre qu'il avait écrit avec Michel Mallory, un de ses paroliers historiques, et d'ailleurs toujours vivant. Et derrière cette chanson se cache en fait une histoire d'amour, Apolline, puisqu'elle a été enregistrée à une époque où Johnny voulait reconquérir son amoureuse, c'était la chanteuse Sylvie Vartan, et figurez-vous que ça a marché, puisqu'elle est revenue, bon du moins un temps.
Il y a des titres posthumes qui rencontrent parfois un très très grand succès.
Et il y en a même qui deviennent totalement cultes, c'est le cas d'Alexandrie Alexandra, un des tubes de Claude François. Une chanson pour surfer sur la vague disco. Donc en 1977, il enregistre ce morceau qui est aussi un hommage à ses origines, avec la ville égyptienne d'Alexandrie, puisque oui, Claude François avait grandi en Égypte. Seulement voilà, quelques jours avant la sortie du 45 tours, le chanteur meurt en s'électrocutant dans sa baignoire et le disque va paraître le jour même de ses obsèques comme une ironie de l'histoire et un dernier hommage.
Bob Marley a lui aussi connu un succès posthume.
Mais oui, avec cette chanson que vous connaissez tous.
C'est posthume, ça ?
C'est posthume, un titre sur un sujet très fort, les Buffalo Soldiers, donc les soldats bisons en français. C'était des cavaliers de l'armée américaine. Leur spécificité, c'est qu'ils étaient noirs, que la plupart étaient des esclaves. C'est donc un titre très politique. Et Bob Marley l'enregistre à la fin des années 70, mais la chanson ne paraît qu'en 1983, c'est-à-dire 2 ans après sa mort. Et effectivement, ça va devenir un tube planétaire.
Certaines chansons ont connu un destin hors du commun.
Écoutez ça. Cette chanson qui s'appelle Free as a Bird a été écrite donc par John Lennon à la fin des années 70, et à cette époque les Beatles sont séparés. Lennon va l'enregistrer tout seul chez lui à New York. En 1980, il est assassiné et 15 ans plus tard, c'est sa femme Yoko Ono qui donne l'enregistrement à Paul McCartney, et là McCartney a l'idée du siècle, reprendre la chanson mais avec tous les Beatles encore vivants. Alors là c'est le début d'un travail titanesque. Chaque Beatles a superposé sa voix sur celle de Lennon, ils ont fait pareil avec leurs instruments. Free as a Bird paraît en 1995, c'était évidemment un événement mondial puisque c'était à la fois un titre posthume de John Lennon et une nouvelle chanson des Beatles 25 ans après leur séparation.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Des comme toi, il n'y en a plus. Le titre posthume donc de Johnny qui est disponible depuis minuit cette nuit. Il est 7h26. Arnaud Demange revient lundi, mais on en a gardé le meilleur. Vous l'entendrez à 8h15. Et puis on joue en attendant parce que c'est le moment. C'est le moment de gagner votre nouvelle prime de match. Elle est énorme, cette prime de match. Il y a 58 000 euros dans la cagnotte. 58 000 euros, souvenez-vous, il y avait 30 000 euros au départ. On a rajouté 500 euros à chaque but marqué. Et au moment où on se parle, la prime est donc de 58 000 euros. Retenez bien ce montant, parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si vous connaissez la prime de match, eh bien, elle est pour vous. Pour ça, il faut vous inscrire. Vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, il est 7h26. Vous avez jusqu'à 7h36 pour envoyer but au 7-32-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h27 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après, dernier match de poule ce soir pour les Bleus. Ils affrontent la Norvège. À quoi s'attendre? Je pose la question à notre fil rouge Coupe du Monde, notre consultant Eric Dimeco, qui sera donc en direct avec nous à 7h40. Et puis, à 7h50, c'est vendredi, c'est le débat, droite-gauche. Nos deux débatteurs, ils vont s'écharper sur la canicule. Le gouvernement a-t-il manqué d'anticipation? Est-ce que notre pays est suffisamment adapté? Charles Consigny, Cécile Duflo, rendez-vous à 7h50. Mais pour l'heure, il est 7h27 et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. 7h29, la météo, on commence à peine à voir le bout, Géraldine.
Alors qu'on a vécu les trois journées les plus chaudes jamais enregistrées en France, eh bien ça y est, on commence à voir les premières baisses de température. Alors attention, on a encore 61 départements qui sont en vigilance rouge, dans la vigilance maximale, 22 départements en vigilance orange. Cet après-midi, il fera 26 degrés à Brest. On avait 39 hier, donc vraiment là, la baisse est nette. On aura encore 35 à Marseille cet après-midi, 36 à Lille, à Bordeaux, 38 à Paris, 39 à Lyon, jusqu'à 41 degrés encore à Clermont-Ferrand et Nancy. Et c'est ce qu'on va noter, vraiment, hein, ce sont les températures les plus chaudes qui vont se décaler un peu plus à l'est. On a des orages actuellement, notamment sur le sud de l'Île-de-France. Ça ne va pas avoir de grosses conséquences dans un premier temps sur les températures, parce que demain, on aura encore une journée vraiment étouffante. Dimanche, on commencera à avoir de plus en plus de départements qui vont sortir de la vigilance canicule. Il faudra attendre le milieu de semaine prochaine pour vraiment voir la fin de cette vague de chaleur.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Encore un peu de patience avant la baisse des températures. Elle arrive par l'ouest, mais dans les deux tiers du pays, il fera encore très chaud. Aujourd'hui, la consommation d'alcool interdite à Paris jusqu'à demain matin. La faute au dérèglement climatique confirme une toute nouvelle étude. 4 Français sur 10 se disent inquiets de ce réchauffement. Et puis deux stars face à face ce soir, Kylian Mbappé, Erling Haaland, France-Norvège. C'est le dernier match de poule des Bleus dans ce mondial. Coup d'envoi 21h.
On commence à entrevoir la baisse des températures.
Ouais, la décrue va doucement s'amorcer. Après le pic de chaleur hier, Géraldine nous le disait, les trois derniers jours ont été les plus chauds jamais enregistrés. Les deux tiers de la France vont connaître aujourd'hui encore des températures autour des 40 degrés. Mais les habitants de la façade atlantique vont pouvoir respirer un peu mieux grâce à la pluie tombée, notamment hier soir en Bretagne, Lou Garnier.
Des gouttes de pluie en quelques minutes, c'est le déluge. Luc était installé sur la terrasse d'un bar à Rennes avec des amis sous 40 degrés quand la verse est tombée.
D'habitude, on serait rentré directement par FX à l'intérieur, mais là, on a juste voulu profiter de la pluie. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça.
En une heure, la température a baissé de plus de 10 degrés à Rennes, un véritable soulagement pour Alzine.
Rien que de sentir la pluie, même le vent... Ça fait du bien, c'est vraiment rafraîchissant. On ne dort pas depuis 10 jours, il fait chaud. Moi, je suis en appartement, c'est pas clim. C'est vrai que ça a fait du bien d'aérer un petit peu parce que moi, personnellement, j'ai pas ouvert mes volets depuis quelques jours et là, ça fait du bien.
Pourvu que ça dure, soupire Martine. Elle élève près de 3700 volailles à Chavagne, en Ille-et-Vilaine. Depuis une semaine, tous les moyens sont bons pour rafraîchir son élevage.
Je crois que je n'ai jamais autant regardé la météo sur mon téléphone que depuis 5 jours. On leur mettait des gamelles, des casseroles, pour que les volailles, en plus des lignes d'eau qu'elles ont habituellement, puissent boire de l'eau fraîche. C'est carrément du système D. On croise les doigts pour que la situation se rétablisse.
Elle attend avec impatience les prochaines averses prévues ce week-end.
Et dès demain, 13 départements seront rétrogradés en orange, de la Sarthe au Tarn et Garonne. Une nouvelle cellule de crise aujourd'hui à 16h, présidée par Sébastien Lecornu, car en attendant, pour le reste du pays, les prochains jours s'annoncent encore étouffants et risqués pour des hôpitaux déjà saturés. C'est le cas à Paris, où 25 arrêts cardiaques ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Les étudiants en médecine appelés en renfort dans les centres d'appel du SAMU. Le préfet de police de Paris lui interdit la consommation d'alcool à partir de midi dans la capitale jusqu'à demain matin 7h. Et plusieurs événements sont en sursis, notamment le festival Solidays à Paris et la marche des fiertés. Celle de Lyon est déjà reportée en septembre. Le réseau électrique toujours en difficulté. 50 000 foyers privés de courant ce matin selon Enedis, en grande majorité en région parisienne, dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, mais aussi en Gironde. À noter également cette annonce de la SNCF qui rend gratuit l'annulation et l'échange des billets de TGV et de Ouigo. Et le brevet de français, par contre, lui, aura bien lieu aujourd'hui. Des pauses plus nombreuses prévues pour les 850 000 collégiens candidats. C'est le changement climatique qui est responsable sans équivoque de l'intensité de cette canicule. C'est la conclusion d'une nouvelle étude publiée ce matin par le groupe de scientifiques du World Weather Attribution. Cela aurait été pratiquement impossible il y a 50 ans, selon eux. Étude qui n'est pas de nature à rassurer ces 4 Français sur 10 qui se disent très inquiets des effets du dérèglement climatique, selon l'INSEE. Une éco-anxiété subie par ces Bordelais rencontrés par Marion Gauthier.
Dans les rues vides, plombées par le soleil.
Surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le silence.
Maxime vit confiné depuis 5 jours avec ses 2 garçons. Il regarde son grand sur son vélo.
L'autre fois, il se lève à 5h du mat. Donc, je l'avais sur moi dehors. Il faisait 35 degrés. Je me suis mis à pleurer. Et c'est la première fois que ça me touche autant, ouais. Et de se dire que c'est en fait l'été le plus froid du reste de leur vie, ouais, ça devient l'enfer, quoi.
Et dans un coin d'ombre, Julia s'accroche à un carton de ventilateur. L'angoisse augmente chez elle avec les températures.
Parce que c'est difficile d'imaginer un futur, hein, que ce soit pour nous ou même pour une progéniture.
Vous avez des enfants, vous ?
Le projet était en train de se faire et là, nous, on souffre alors en nouveau-né, on n'imagine pas.
Reste l'espoir d'un changement après cette canicule pour ces 2 étudiantes.
C'est une réalisation quoi, qu'on a maintenant, surtout qu'on a vu qu'il faisait plus chaud que dans le Sahara hier.
C'est ça qui m'a choqué.
J'ai entendu hier à la radio qu'on était le pays où il faisait le plus chaud dans le monde et là je me suis dit ok, on a vraiment atteint un point, donc ouais, si je commence à en parler avec la famille et tout.
Parler des efforts à faire pour ralentir le dérèglement climatique, elles promettent des résolutions pourvu, disent-elles, que ce soit collectif.
Reportage à Bordeaux de Marion Gauthier pour RMC. Le bilan s'alourdit au Venezuela au lendemain de 2 tremblements de terre, 235 morts selon le ministre de la Santé. Bilan encore provisoire, les recherches continuent pour tenter de sauver des personnes prises au piège dans les importants décombres. Il est 7h35, de grosses affiches au programme des 16e de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Avec les Pays-Bas qui affronteront le Maroc après avoir battu 3-1 la Tunisie, le Japon lui affrontera le Brésil après son match nul 1-1 contre la Suède et l'Australie valide son ticket après son nul 0-0 contre le Paraguay. Les États-Unis également qualifiés malgré leur défaite contre la Turquie qui l'a emporté 3-2. Ce soir, les Bleus ont rendez-vous avec la Norvège. Dernier match de poule, il suffit à la France d'un nul pour sortir premier du groupe. Ce sera sans Didier Deschamps, vous le savez, rentrer en France pour les obsèques de sa mère, mais avec évidemment le capitaine Kylian Mbappé. Et en face, il y aura une autre star de taille, Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City qui a déjà marqué 4 buts dans cette compétition. Aurélien Tiercin, une véritable légende dans son pays.
Erling Haaland est sans contestation possible la méga star de tout un pays pour les supporters norvégiens.
On adore Haaland. Il va finir meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Haaland va détruire les Bleus.
La confiance est absolue puisque le buteur bat tous les records. Il a marqué 59 buts en 52 sélections, une moyenne supérieure à la légende allemande Gerd Müller. C'est hallucinant, même pour son papa, Alfie Haaland, ancien footballeur lui aussi.
Ce sont des chiffres fous. Année après année, il est un peu surpris que ça continue aussi longtemps, en étant humble, en étant réaliste. Il va continuer pendant de nombreuses années, nous sommes très heureux.
Erling Haaland reste effectivement très humble et préfère placer l'équipe au-dessus de tout.
Je fais partie de quelque chose d'exceptionnel. Nous écrivons une page d'histoire. Je suis extrêmement fier d'être norvégien.
La Norvège reste sur 12 victoires d'affilée en match officiel. C'est la meilleure série de son histoire.
France-Norvège, coup d'envoi donc à 21h. Ce sera à vivre évidemment sur RMC.
C'était le quintet. Où est-ce que c'est aujourd'hui?
C'est à Enghien ce soir. Départ à 20h15. Et la Dream Team vous conseille de jouer son favori, le numéro 3, Florida B. L'outsider, c'est le numéro 11, Lovely Wilma, le 3 et le 11.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h37. Vous êtes nombreux à nous appeler, à subir ces chaleurs extrêmes. On commence à en voir le bout. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Apolline, comment allez-vous?
Eh ben ça va, et vous surtout, vous êtes dans l'Essonne, est-ce que vous avez réussi à dormir?
Oui, ça va, ben en fait je suis les conseils de vos chroniqueurs. Là cette nuit j'avais mis des pains de glace sous les bras.
Voilà, exactement, sous les bras, voilà, il faut la bouillotte qu'on met au congélateur et qu'on place sous l'oreiller avant de s'endormir.
Voilà, exactement, et puis là, Breaking News, Géraldine a un peu touché mon enthousiasme, parce que là on a un orage sur l'Essonne, là, donc bon.
Ah, vous l'entendez là qui tonne? Vous êtes à Brunois, c'est ça? Donc,
C'est ça, ouais,
dans le sud de la région parisienne.
Donc je me disais, ça y est, on est délivré, mais non, voilà, quoi.
Ça tonne, mais ça ne rafraîchit pas parce que ça ne tombe pas.
Il y a de la pluie.
Il y en a un peu là.
Oui, une petite pluie fine, ouais.
Ok, petite pluie fine.
C'est
écoutez,
pas violent, mais bon, c'est pas. Ouais.
Espérons que ça fasse un peu de bien quand même. Mais Géraldine l'a dit, on commence à voir le bout, c'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à franchir des records, mais on peut espérer retomber dans des normales de saison uniquement à partir de mercredi. On va rester quand même dans des très fortes chaleurs. Eh ben, tenez le coup. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane?
Je suis steward.
Steward. Mais voilà, vous êtes au sol.
Voilà, c'est ça. Ouais, donc la chance de pouvoir de temps en temps avoir une chambre climatisée.
Voilà. Quand vous êtes en mission, c'est quoi la prochaine mission là?
Là, j'ai pas encore défini, mais là j'étais à Prague. Là, et il faisait 30 degrés, donc finalement il faisait bon. C'était pas frisquet, mais il faisait bon. Hein.
Heureux d'être à Prague. Merci en tout cas, Stéphane, d'être intervenu au 32-16. Vous n'hésitez pas, comme Stéphane, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les Bleus ont rendez-vous avec la Norvège pour confirmer leur première place du groupe. Eric Dimeco est avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour Apolline.
Notre fil rouge pendant cette Coupe du Monde, dernier match de poule, donc ce soir 21h. Et dans un instant, vous nous dites pourquoi il faut suivre cette rencontre qu'elle n'est absolument pas à négliger. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC. Et RMC Story Les Bleus joue pour la première place.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
France-Norvège, ce soir, 21h sur RMC. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour.
Eric, c'est avec vous qu'on vit et qu'on décrypte la Coupe du Monde sur RMC chaque matin. Dernier match de poule ce soir, il n'y a pas d'enjeu.
Ah oui, il y a toujours un enjeu. Alors, la première place, pourquoi? Pour rester sur place, Didier Deschamps a insisté. Il veut pas bouger, il veut rester de ce côté-là des États-Unis qui a l'air moins chaud et il veut éviter les longs déplacements.
Parce que si on a la première place, on restera vraiment à jouer des matchs sur la côte Est, hein, c'est ça l'idée.
Voilà, il y a beaucoup moins de déplacements. En tout cas, l'équipe de France resterait, je crois, basée là où elle est aujourd'hui. Première raison. Deuxième raison, ne pas casser la dynamique, puisque une autre victoire donnerait beaucoup de confiance à cette équipe-là. Et puis, alors c'est pas tout à fait vrai sur cette compétition et sur ce tableau-là, mais normalement, le parcours serait un petit peu plus facile qu'en terminant deuxième. C'est pas tout à fait évident sur cette compétition-là. Sur cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'avantages à finir premier.
Pour être premier de poule, pour finir premier de poule, il faut atteindre quel score ce soir?
Alors, il faut ne pas perdre. Voilà, c'est simple. Donc, le nul ou la victoire. Et donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir comment vont gérer les joueurs de l'équipe de France ce match-là. Parce que si le score reste à égalité un long moment, ils auront peut-être intérêt à ne pas trop forcer pour aller le gagner et à simplement le gérer aussi. Donc, ça va être intéressant. Est-ce que l'équipe de France est capable de gérer un résultat? On le verra. Mais parce qu'avec les forces offensives qu'on a, on pourrait être tenté à aller vers l'avant, mais voilà, il ne faut pas perdre ce match.
Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quand même les Bleus face à la Norvège, qui elle aussi sait qu'elle est qualifiée. Donc on a presque l'impression que d'un côté comme de l'autre, ils n'ont pas forcément intérêt à pousser trop, quoi.
Ah ben, si les Norvégiennes n'ont pas envie de pousser et qu'ils nous laissent nuls tranquilles, on prend, hein, Apolline, hein, ça, ça va nous permettre de nous reposer un peu. Mais non, eux, ils ont déjà réussi leur Coupe du Monde. Hein. Alain a déjà dit, c'est une nation qui se qualifie rarement pour ce genre de phase finale. Et lui, il a déjà dit, on a réussi notre Coupe du Monde, les Français vont aller au bout, ils vont nous battre pour nous mettre la pression. Mais attention, lui, il fait jamais les matchs à moitié et ses partenaires auront envie de faire un coup aussi.
On imagine évidemment un duel à distance entre Haaland et Mbappé. Est-ce qu'il faut effectivement l'imaginer comme ça ?
Oh, ce sont deux buteurs, alors pas le même style, mais c'est des garçons qui veulent enfiler les buts, qui veulent. Enfin, les stats sont importantes pour eux, même si le père de Haaland nous dit que non. Ça a toujours été son moteur, marquer des buts. Alors après, dans un éventuel duel de buteurs à distance, qui ira le plus loin, plutôt Mbappé, puisque je pense que l'équipe de France est armée pour aller au bout. Les Norvégiens. On ne sait pas. On va les voir d'ailleurs contre nous ce soir, leur véritable niveau. Mais celui qui va aller le plus loin aura le plus de chances d'être meilleur buteur de la compétition.
Didier Deschamps qui ne sera pas sur le banc français ce soir. Il est rentré en France après le décès de sa mère. C'est Guy Stéphane qui sera à sa place. Ça change quelque chose en un mot ?
Un petit peu. Alors ils sont ensemble depuis longtemps. Donc tous les principes de jeu sont connus. C'est Didier qui aura sûrement fait la composition. Attention, hein, Didier, et on lui présente nos condoléances et toujours à la manœuvre. Mais Guy connaît ce groupe par cœur. Après, le seul petit problème, c'est la lecture du match et comment on réagit à l'intérieur d'un match par des changements tactiques, voire des changements en faisant rentrer des remplaçants, là oui.
Merci beaucoup Éric Dimeco, ancien international tricolore et qui est notre fil rouge sur cette Coupe du Monde. France-Norvège, 21h, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Avant match des 18h, after foot jusqu'à 1h du matin. Il est 7h48 et ils sont rentrés dans ce studio. La voix de droite, la voix de gauche, c'est vendredi et c'est le débat. Cécile Duflot, Charles Consigny, un pic inédit qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire, voilà ce que dit Emmanuel Macron, mais qui défend son gouvernement en assurant qu'un gros travail d'adaptation a été fait. Cécile ?
Ben c'est faux et c'est vraiment triste d'oser dire ça.
Charles ?
Il est sur Mars. Il est débranché du réel.
Au moins là-dessus, vous serez d'accord. On débat dans un instant. Il est 7h48 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, le monde entier se met à la musique en français.
Mais oui, c'est un rapport mondial de la plateforme Spotify qui nous le dit. En 2025, 148 millions d'auditeurs ont régulièrement écouté de la musique dans notre langue alors qu'ils vivent dans un pays non francophone. Vous êtes peut-être connu, Indila, toujours un succès mondial 13 ans après la sortie de Dernière Danse. Sinon, ce sont des habitués des podiums qui cartonnent dans le monde. Aya Nakamura, Gims, Stromae, plus de 600 millions de playlists Spotify avec des titres en français. En Europe, aux US, les Turcs, les Brésiliens, plus 1200% en Égypte. Plus 800% en Inde. Alors attention, c'est pas que la France qui attire, mais la francophonie. En témoigne des succès maliens ou ivoiriens comme ce rappeur d'Abidjan, Imra. Et qui dit francophonie dit bien sûr Québec, Céline Dion, Charlotte Cardin ou encore Belgique avec le nouveau Angèle, promis à un grand nombre d'écoutes lui aussi.
RMC, Apolline Matin, le débat.
7h50 sur RMC, comme tous les vendredis, c'est le débat. Voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny à droite, Cécile Duflot à gauche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était hier à Antibes.
Nous vivons, il faut avoir l'humilité de le regarder, une période totalement inédite. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire.
Nous nous sommes adaptés, Cécile.
Franchement, faut pas avoir honte quand même. Moi, j'attendrai d'un responsable politique comme Emmanuel Macron, qui est président depuis bientôt 10 ans, qui dit « je suis désolé », parce qu'il y a rien d'autre à dire. « Je suis désolé », parce que c'est pas vrai. Il ment. C'était le même sketch il y a un an et demi avec qui aurait pu prévoir. Enfin, tout le monde pouvait le savoir. Donc effectivement, c'est inédit, mais c'est totalement prévisible. Est-ce que les moyens ont été mis pour s'y préparer ? Pas du tout. Est-ce que l'énergie a été mise pour justement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre ? Parce qu'il faut faire les deux. En même temps, pas du tout. Et donc, il devrait avoir l'humilité, l'honnêteté et un peu la dignité de dire qu'il est désolé.
Charles ?
Ce qui est curieux, effectivement, avec Emmanuel Macron, c'est que psychologiquement, il est vraiment incapable de reconnaître un... C'est même pas tant un échec qu'une insuffisance, disons, sur un sujet. Il a toujours une manière de présenter les choses qui lui donne finalement un rôle favorable et qui montre qu'il a toujours fait exactement ce qu'il fallait faire. Ça me rappelle moi aussi quand il avait dit je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Voilà. Fameuse phrase.
Non mais psychologiquement c'est très intéressant. Moi je pense que contrairement à ce qu'il dit, on n'est pas du tout adapté en France à ce type de.
Et la faute à qui alors ?
De moment. Et ensuite, ce type de moment n'a rien de si imprévisible. Je veux dire, personne n'est complètement surpris, même si c'est vrai que c'est impressionnant. À Paris notamment, je trouve que c'est quand même impressionnant. Personne n'est surpris. La faute à qui ? À mon sens, la faute au fait qu'on n'a plus de marge de manœuvre budgétaire pour organiser des choses, pour installer des choses, par exemple pour climatiser... les écoles, les collèges, les lycées, un certain nombre de bâtiments publics, la moitié des bus et des métros qui restent encore à climatiser, ce genre de choses. Et donc, on est un peu comme là sur les carburants, en fait. Ils n'ont rien pu faire parce qu'ils n'ont plus de budget. Donc je pense, à mon sens, c'est aussi une question, et c'est peut-être même surtout une question de choix budgétaire.
De choix budgétaire, Cécile ?
Pour le coup, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Ça, c'est très documenté, que ce soit en termes d'assurance, que ce soit en termes de vie humaine et aussi de vie des animaux. J'ai une grande pensée, là, on est un pays d'élevage, la France, et tout ce secteur-là est dans une situation, en particulier dans l'Ouest, extrêmement difficile. J'essaye de ne pas être en colère et j'essaye de ne pas être désespérée non plus. Ça fait un chemin étroit pour dire qu'en fait, il faudrait que certains qui n'ont pas mis en œuvre les mesures qu'il fallait mettre en œuvre depuis tant d'années le reconnaissent. Et enfin, on pourrait avancer pour faire ce qu'il y a à faire. Parce que moi, je me souviens aussi...
Quelles mesures, par exemple ?
La diminution des émissions de gaz à effet de serre, c'est un chemin qu'on sait pouvoir prendre. Ça a été documenté par Jean Pisani-Ferry. Il y a un rapport de Pisani-Ferry et Madame Mahfouz qui a été remis au président de la République. C'est lui qui avait élaboré même son programme économique.
Au début du premier quinquennat.
Voilà, il est très documenté, il dit les choses. Il dit d'ailleurs comment le financer, c'est intéressant. Il dit qu'il faut, lui, une taxe exceptionnelle sur les plus riches parce qu'il y a un coût à donner. Il y a une espèce d'élan très fort à donner.
J'adore.
Et là,
parce que la taxe, moi je veux bien qu'on taxe les riches, mais... Ils pourront pas tout financer.
Mais c'est pas la.
On vient les chercher pour l'environnement, on vient les chercher pour les retraites. On vient les chercher sur tous les. On a l'impression que c'est la solution miracle. Je pense que ça ne suffira pas.
Alors, ça ne suffira pas, c'est certain. C'est d'ailleurs, pour le coup, depuis de longues années, Oxfam a publié un manifeste fiscal pour dire tout ce qu'il faudrait financer, comment on pourrait le financer. Il y a un certain nombre de dépenses aussi qu'on pourrait ne pas faire. On a des dépenses publiques, beaucoup d'argent qui est dépensé pour aggraver la situation dans laquelle on se trouve. Donc, si on évitait de les faire, déjà, ce serait bien. Et ensuite, on écoute les scientifiques. Et l'adaptation, c'est tout un chemin complexe, mais c'est haut, ça ne peut pas aller sans une diminution de nos émissions.
Et on écoute les écolos, Charles ?
Non, parce que, honnêtement, non. Parce que non. Moi, je pense déjà, que les écolos desservent leur cause. Oh. Je suis désolé, mais quand j'entends Madame Tondelier, je suis plus trumpiste que jamais. Je suis désolé de vous le dire. Quand j'entends Madame Tondelier, quand j'entends les écolos de notre classe politique, j'ai envie de m'acheter un 4x4 diesel, 400 chevaux, et de faire de longues distances avec. Excusez-moi, j'ai envie de creuser une piscine, j'ai envie que ces gens me foutent la paix. Donc moi, je vous le dis honnêtement.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, ils mettent toujours dans leur noble combat pour la planète un noble combat pour le goulag. Et donc, excusez-moi, moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. J'estime que ce sont des Khmers rouges déguisés en écologistes. En revanche, et je pense par ailleurs que...
Ils ont tué des millions de personnes.
Et je pense par ailleurs... Oui, mais je pense qu'ils ont des idées totalitaires.
Franchement...
Je pense que ce qu'on ferait à l'échelle de la France, j'en termine par là, je pense que la France est un pays assez exemplaire en matière écologique. Par rapport à tant... excusez-moi, par rapport à beaucoup de pays dans le monde, les Français sont assez exemplaires. On trie nos déchets, on n'a pas beaucoup de grosses bagnoles, on a un réseau ferroviaire qui marche remarquablement, etc. Et je pense que s'acharner à l'échelle de la France, je pense que c'est à l'international qu'on doit reprendre l'offensive avec les COP. Les COP, c'était un bon truc. Mais il faudrait repartir au combat là-dessus.
En fait, Charles, il aurait pu faire cette intervention et moi, j'ai 50 ans, enfin 51 ans, je suis ménopausée, ça fait 25 ans que je fais des débats sur le sujet. Et il y a 25 ans, pour être honnête, on disait attention, le risque, c'est ça. Et face à vous, il y avait des gens qui disent, quand je vous entends, franchement, la vie que vous prenez aussi, gna gna gna, le retour à la caverne, la bougie, tous ces trucs. Et mais à l'époque, on s'appuyait sur des travaux scientifiques, mais c'était pas certain. Maintenant, pardon de le dire, Charles, mais tout ce qui arrive, vous pouvez retrouver les archives, c'était filmé à l'époque. Hein. C'est ce qu'on disait, avec des gens qui disent avec vous,
vos solutions n'étaient pas porteuses.
En fait, c'est pas une question de solution porteuse. Que les écologistes soient pas parfaits, qu'ils aient fait des erreurs, sans doute. Sans doute, puisque sinon on n'en serait pas là. Et il y a une tentation.
Les écologistes.
Non, mais alors je vais reprendre.
Ça fait pas envie.
Donc les écologistes globalement, c'est très très large. Il n'y a pas que le parti écologiste. Il y a tous les scientifiques qui ont travaillé sur le sujet. La réalité,
là, je crois
c'est
que Charles, il parlait plutôt du parti.
Qu'on disait. Oui, mais le sujet. Pardon, mais le sujet, il est pas là. Le sujet, il est plus là aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand bien même on mettrait à l'agenda de la France un grand chantier de transformation, mais il faut le faire. Il faut le faire simplement parce qu'on aime notre pays. Enfin, Charles, on peut avoir au moins ça en commun.
Les écologistes, vous aimez la France, par exemple, qui voulaient démonter les centrales nucléaires. Mais excusez-moi, c'était une connerie. Ils n'ont pas que
on
des
en a
choses
arrêté
vraies,
trois. Il y a un sujet avec le nucléaire aujourd'hui. Le nucléaire, il est aussi vulnérable au changement climatique, que ce soit à la montée de l'eau, que ce soit à la sécheresse des rivières.
Oui,
je voudrais terminer là-dessus. Je voudrais terminer là-dessus parce que je ne veux pas m'énerver, mais moi j'en ai ras-le-bol des mecs qui expliquent aux femmes que c'est elles qui ont pissé à côté de la cuvette, pour dire les choses. Donc c'est exactement ce qui se passe là où on commence à dire. En fait, il se passe exactement ce qu'on dit les écolos et on va dire que c'est de leur faute. Et moi j'ai pas envie de défendre le parti écolo parce que c'est pas parfait, personne n'est parfait. Et effectivement, il y a eu des moments où c'était too much. Mais sur le fond, sur l'analyse scientifique et sur les solutions, par exemple, débitumer les cours d'école, c'était absolument nécessaire. Donc maintenant, il faut mettre un peu d'intelligence et d'honnêteté. Que les écolos puissent dire qu'ils n'ont pas été parfaits, mais que tous ceux qui leur ont tapé dessus disent qu'ils avaient raison. Ils avaient raison sur le diagnostic, parce que c'est la science, tout simplement.
Le diagnostic, raison, Charles.
Mais de toute façon, l'écologie n'est pas une cause.
Allez, un petit effort.
De toute façon, mais non, parce qu'ils sont dans l'excès tout le temps.
Ils avaient raison.
Allez, on s'arrête là.
Ça n'est pas une cause qui est le monopole des écolos.
Je pense qu'on en reparlera. Merci à tous les deux. Charles Consigny, voix de droite. Cécile Duflo, voix de gauche. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis il y a Emmanuel Le Chypre qui arrive et qui nous le dira. La France n'a plus les moyens. Alerte rouge sur les finances de la France. 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les autorités redoutent énormément le week-end qui arrive là avec la chaleur. Les hôpitaux sont déjà saturés, vous entendrez concrètement ce que ça veut dire à Rennes. La consommation d'alcool est interdite aujourd'hui à Paris pour éviter de faire gonfler les chiffres. Les collégiens passent le brevet à partir de ce matin. Épreuve adaptée cette année avec la chaleur, plus de pauses, on sera à Toulouse. Et les Bleus rejouent à la Coupe du Monde, dernier match de poule contre la Norvège avec encore des orages annoncés.
Est-ce que ce sera respecté cette fois? La consommation et la vente d'alcool sont interdites aujourd'hui à Paris.
Alors on se souvient que la même décision avait été prise pour la fête de la musique. Ça n'avait pas du tout été respecté le week-end dernier. Aujourd'hui, le préfet de police décide donc d'interdire la consommation d'alcool à partir de midi et la vente à partir de 18h en expliquant que l'alcool provoque des effets dévastateurs au soleil. On en pense quoi, tiens, sur les quais de Seine ce matin?
Moi, d'un point de vue personnel, j'avoue que ça m'embête un peu parce que on va moins en profiter de notre week-end. Maintenant qu'on est au courant de l'information, on va anticiper le coup. Alors, c'est vrai que c'est pour la sécurité de tout le monde.
Ça fait déjà 10 jours qu'on est dessus, c'est peut-être un peu tard pour réagir.
Je pense que dans tous les problèmes de chaleur, c'est pas l'alcool le vrai problème, c'est plutôt les politiques qui gèrent ça.
C'est une mesure qui est compréhensible pour éviter aussi de mobiliser trop les pompiers ou le SAMU. C'est vrai que la prendre à la fin, ce qu'on a l'impression être la fin de la vague de chaleur, c'est ça que j'ai un peu plus de mal à comprendre.
Alors, je précise que la vente et la consommation d'alcool assis dans un bar ou au restaurant, donc ce soir par exemple pour le match des Bleus, eh bien cette consommation-là reste autorisée. Mais cette décision est prise car les hôpitaux sont déjà saturés à Paris, c'est ce que dit le préfet, et que le week-end sera compliqué dans les hôpitaux, c'est ce que dit la ministre de la Santé. C'est déjà le cas par endroits, comme ici à Rennes, nous explique le correspondant RMC Martin Lange.
Une salle d'attente pleine, la queue devant le guichet d'admission. Dès les premières heures de la journée, les urgences du CHU de Rennes sont prises d'assaut. Manon est aide-soignante.
Il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées. On a besoin de les hydrater en permanence. Tous les soins sont compliqués. Les soignants courent partout, il y a des brancards déjà partout à l'accueil. On ne sait plus par où commencer, quoi.
Devant les urgences, Kelly, ambulancière, enchaîne les allers-retours.
Une hausse des interventions, beaucoup, beaucoup de malaise. Les temps d'attente pour les transmissions aussi aux urgences sont beaucoup plus longs. C'est bien compliqué aussi à l'intérieur pour les brancards. On arrive parfois dans le SAS, il n'y a plus de brancards. C'est vraiment vraiment le bordel, c'est très compliqué pour tout le monde.
L'hôpital a activé son plan blanc, des interventions ont été déprogrammées et des personnels rappelés. Mais selon Nathalie Loinsard, infirmière et représentante du personnel, c'est tout l'hôpital qui est en surchauffe.
Il fait 36, 40 degrés, et même dans les chambres. On doit faire comme on peut, avec des draps sur les fenêtres, avec des couvertures de survie, avec des ventilateurs qu'on met à droite, à gauche. Jamais on a travaillé dans ces conditions-là.
D'ailleurs, hier, des soignants des services de gériatrie et de neurologie ont fait valoir leur droit de retrait en traitant seulement les urgences vitales.
Et c'est dans ce contexte que 850 000 élèves se lanceront à partir de 9h, là, ce matin, dans les épreuves du brevet des collèges. C'est le français, aujourd'hui. Un brevet nouvelle formule, avec moins de contrôle continu, mais surtout un brevet sous canicule. Le ministre de l'Éducation promet d'ailleurs davantage de pauses pendant les épreuves. Concrètement, écoutez comment ça va se passer dans le collège de Pierre Labeste. Il est principal à Toulouse.
On a priorisé toutes les salles qui sont équipées par le conseil départemental de ventilateurs. Les invités à venir en tenue la plus légère possible pour ne pas souffrir de la chaleur. D'avoir une gourde, c'est vivement conseillé. Mais au besoin, voilà, on a prévu, voilà, dans nos frigidaires sont pleins de bouteilles d'eau qui, je l'espère, trouveront un bon usage dans le courant de cette première épreuve de français.
Et alors, près de Tarbes, les élèves d'un petit collège vont passer le brevet ce matin dans un monastère. Tout a été délocalisé dans ce monastère pour profiter de la fraîcheur, dit la préfecture. Et on apprend, tiens d'ailleurs, ce matin que EDF va débloquer 80 millions d'euros pour équiper rapidement tous les établissements scolaires de solutions de rafraîchissement.
Et notez, mon invité à 8h30, ce sera Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Les hôpitaux qui sont saturés. Appelez-nous surtout au 3216, appelez-nous pour témoigner. Vous êtes peut-être prof. Vous allez surveiller aujourd'hui le brevet, dans quelles conditions. Vous êtes parent, appelez-nous également pour nous dire si ça contribue à stresser davantage votre enfant. Et puis si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, appelez-nous aussi pour nous dire si ça tient effectivement face aux afflux de patients. Le 32-16 vous est ouvert.
Alors la réponse politique à ça, eh bien il y aura une nouvelle réunion de crise interministérielle cet après-midi 16h. Emmanuel Macron salue le gros travail d'adaptation qui a été fait tous ces derniers jours. Et Sébastien Lecornu adresse une lettre aux maires pour les remercier et défendre l'action de l'État. Une des actions, justement, Romain Houk pour RMC, eh bien c'est de mobiliser les facteurs pour rendre visite aux personnes âgées.
Oui, ce sont 40 000 employés de la Poste qui vont être déployés dans le cadre de ce dispositif. Concrètement, ces agents vont sonner chez les personnes vulnérables, les personnes isolées, souvent âgées, pour s'assurer qu'elles ne souffrent pas trop de la chaleur ou ne sont pas en situation de détresse. Très bonne idée, dit Stéphane Chevet, il est représentant CFDT à la Poste.
Je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire, d'autant plus que beaucoup de seniors se retrouvent dans des situations d'isolement social. Donc le fait d'avoir une visite du facteur fait en sorte que cet isolement soit rompu au moins quelques instants dans leur journée.
Et si jamais le facteur n'obtient pas de réponse après plusieurs coups de sonnette, alors il devra interroger les voisins et contacter les secours si besoin. Et là, on outrepasse les compétences des facteurs, assure Olivier Roset de la Fédération Sud PTT.
Ça n'est pas à nous à faire ce travail. On n'est pas des professionnels du médico-social, ça ne peut pas marcher.
Sébastien Lecornu l'assure, ce dispositif ne doit pas remplacer l'action des professionnels de santé, mais simplement la compléter.
On en parlait hier matin à cette heure-là. Je vous signale que la piste de l'agression pour un motif racial est écartée à Narbonne après la mort d'un jeune de 17 ans qui a été tabassé à mort par 5 autres jeunes, dont 3 mineurs, en fin de semaine dernière. Ça, c'est le premier gros week-end de l'été sur la route. La journée est classée orange au niveau national et même rouge dans tout le nord-ouest. Pour ceux qui vont d'ailleurs vers la Méditerranée, c'est une des conséquences de la canicule. La température de l'eau a pris 7 degrés en 7 jours à Marseille. C'est ce que relève ce matin le journal La Provence.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
On redoute encore les orages aujourd'hui à la Coupe du Monde. Temps orageux qui est annoncé à Boston où les Bleus joueront ce soir leur troisième et dernier match de poule contre la Norvège. On se souvient tous du match à rallonge en début de semaine à cause justement des orages. Les Américains prennent zéro risque, vous savez, avec ça. Et donc ce soir à 21h, c'est Guy Stéphan qui sera sur le banc des Bleus à la place de Didier Deschamps, deuillé par le décès de sa mère.
J'ai la sensation que je suis pas à ma place. J'ai une pensée très forte, évidemment, pour Didier et sa famille, moi et l'ensemble du staff et les joueurs. J'ai beaucoup d'échanges avec lui. J'en ai eu encore il y a quelques minutes. Ça sera le cas jusqu'au match. Je vais m'efforcer de rendre une situation qui est difficile. Je vais m'efforcer de la rendre la plus normale possible.
Alors les Bleus veulent gagner hein, ce soir pour finir premier de leur groupe. Au minimum, il faut faire un match nul. Ils veulent rester en fait sur la côte est des États-Unis pour la suite de la compétition. États-Unis, tiens, qui ont perdu cette nuit 3-2 contre la Turquie avec un but à la dernière minute. La nuit prochaine, dans la foulée des Bleus, à 5h du matin, il y aura le match entre l'Égypte et l'Iran qui a été désigné comme étant le match des fiertés, impliquant donc ces deux pays qui répriment hein, l'homosexualité. Les festivités sont prévues à Seattle où aura lieu la rencontre. Et Xavier Grimaud pour RMC s'appelait ni aux Égyptiens ni aux Iraniens.
Oui, pour les deux fédérations, être associé à ce match des fiertés est une provocation. Les deux pays s'en sont vertement plaints. Mahmoud Essa, les journalistes pour le média égyptien Yael Akora.
Ce n'est pas légal, on a un problème avec ça. On fera tout ce que l'on peut pour laisser l'histoire de fierté loin de nous. On ne laissera rien qui puisse encourager ça.
Away from us. La gêne est la même pour les supporters égyptiens.
Je pense que tout le monde veut surtout penser à avoir un bon match. On se concentre sur le sport et pas sur les autres sujets.
Le comité d'organisation, lui, se défend. Les célébrations autour de ce match étaient prévues de longue date, bien avant de savoir quelles équipes s'affronteraient. À Seattle, le dernier week-end de juin est une grande fête des fiertés depuis 50 ans, rappelle Eda McClendon, la vice-présidente.
Je pense que c'est une opportunité d'amener de la visibilité aux fans égyptiens et iraniens, de montrer à quoi ressemble une autre culture. Un méga événement, comme une Coupe du Monde, c'est ce qui rassemble le monde en y célébrant l'inclusion pour unir au-delà de l'équipe qu'on supporte.
Et dans les tribunes, les drapeaux arc-en-ciel seront autorisés aux côtés de ceux de l'Iran et de l'Égypte, laissant craindre quelques tensions.
Et la nuit prochaine, on reverra aussi l'Espagne contre l'Uruguay dans une ambiance très latine, puisque ce match aura lieu au Mexique. Tiens, d'ailleurs, l'Espagne et le Mexique profitent de l'occasion pour se réconcilier après des années de brouilles indifférentes autour de la conquête espagnole de l'Amérique. Voilà aussi à quoi sert la Coupe du Monde.
C'était le journal de Quentin Vigne à 8h10, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
Emmanuel, la France n'a plus les moyens d'affronter une crise ni d'investir pour son avenir.
Oui, les finances publiques, c'est comme le réchauffement climatique. Apolline, ça fait 40 ans que les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et ça fait 40 ans que la situation ne cesse de se dégrader. En pleine canicule, c'est la Cour des comptes qui fait monter la température budgétaire. Pour la troisième année consécutive en 2026, les déficits publics seront supérieurs à 5% du PIB. La dette publique devient exorbitante. Songez que rien que cette année, elle va augmenter de 160 milliards d'euros. Alors pour financer cette dette, la France emprunte, comme tout un chacun. Eh bien, songez que le seul remboursement des intérêts de cette dette, ça va atteindre 77 milliards d'euros cette année. Alors 77 milliards d'euros, vous me dites c'est quoi ? Bah 77 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale et de la culture réunis, ou pour le dire autrement, c'est l'équivalent des budgets de la défense, de la police et de la justice.
Et ça c'est juste le remboursement.
Ça c'est juste le remboursement. Vous n'avez pas commencé à rembourser le premier euro de dette avec
c'est juste les intérêts. Quoi.
Avec ça, exactement, juste les intérêts.
Et pourtant les besoins d'investissement, j'ai l'impression, n'ont jamais été aussi importants.
Alors, ils le sont d'autant plus que la France a cessé depuis 40 ans d'investir dans son avenir, donc dans ses infrastructures. Le résultat, c'est qu'il faut aujourd'hui trouver 200 milliards d'euros pour rénover nos réseaux électriques, 100 milliards pour rénover nos réseaux et nos routes, 100 milliards pour le réseau ferroviaire, 60 milliards pour moderniser notre réseau d'eau, sachant qu'il faudra aussi trouver, mais par an cette fois-ci, 60 milliards pour la transition écologique, ça veut dire rénovation des bâtiments, décarbonation des transports, plus 10 milliards pour le grand âge. Vous vous rappelez de la phrase des années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Ouais.
Ben là, maintenant, on n'a plus d'argent, donc il va falloir quand même qu'on ait des nouvelles idées.
Sûr, là. La France, c'est vraiment la cigale qui a bien chanté et bien dansé. Les chiffres du jour, Emmanuel.
Eh bien, sur les carburants, on est plutôt stable, là, avec l'égalité quasi
parfaite. Ça descend plus, quoi.
Entre le gazole et le samplon 95. Bah, on a un petit seuil de résistance un peu en dessous de 1,90€ le litre pour le moment. Le pétrole qui a quand même bien baissé, hein. Il a perdu 6$ le baril en une semaine. Là, on est autour de 73,6$ le baril. Et puis le gaz est stable, 41€ le mégawatt.
Merci Emmanuel, 8h13. Et dans un instant, Arnaud Demanche arrive pour nous faire rire. Restez bien avec nous à 8h30. Mon invité dans le face-à-face, c'est le chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin. Appel au SAMU multiplié par 2, urgences saturées, des chambres parfois non climatisées. Et hier, cette patiente qui est morte dans une chambre d'hôpital, non pas de sa pathologie, mais de la chaleur. Ça s'est passé, semble-t-il, en Bretagne. Philippe Juvin, mon invité donc à 8h30. Sur RMC et BFM TV, ne le manquez pas. À 8h50, Mathieu va faire un premier bilan de la Coupe du Monde.
Oui, avec le dernier match de poule des Bleus ce soir, France-Norvège, on en a parlé tout à l'heure, on va s'arrêter un peu sur l'ambiance aussi en dehors des stades, les prix des billets, est-ce que c'est un début de Coupe du Monde réussi ?
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h07 sur RMC, tous les jours, Arnaud de manche. Enfin là, il n'est pas tout à fait là, il revient lundi, on en a gardé le meilleur. Écoutez, Arnaud qui revient sur une actrice qui se lance dans le cinéma.
Dites donc, Apo.
Ouais.
Qu'est-ce que j'apprends pas ?
Quoi,
je lisais les cahiers du cinéma hier. Vous allez devenir actrice ? Et oui, Apo va jouer dans Baron Noir, la série de Canal+.
Ouais.
C'est une nouvelle carrière qui commence. J'espère que vous aurez un César pour ce rôle.
Ah bah j'espère aussi.
Remis par Dominique Besnéard lui-même. Chers amis, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce César du meilleur espoir féminin à Apolline de Malherbe, merveilleuse, radieuse, pour son rôle d'Apolline de Malherbe. J'ai jamais vu quelqu'un jouer Apolline de Malherbe aussi bien qu'Apolline de Malherbe. Alors Apo, j'ai un projet à te proposer.
Oui.
Alors c'est disruptif, hein. Attention, c'est pas Baron Noir, c'est un projet pakistanais.
Ah.
C'est une métaphore de la crise du détroit d'Hormuz et ses futurs palmes d'or à Cannes. Tu jouerais une gardienne de puits dans une steppe désertique en Azerbaïdjan qui surveille un puits désaffecté après l'AVC du précédent puisatier interprété par Jean-Jacques Bourdin. Chaque matin, tu vas au puits, tu t'assois, tu tournes une valve et tu regardes cette eau qui ne coule pas. Alors tu interroges, mais cette fois du regard intérieurement, le monde et l'absurdité bureaucratique. Tout ceci dure 23 ans et un jour, une fonctionnaire du ministère de l'économie américaine. Alors pour la jouer, j'ai pensé à Edwige Chevrillon de BFM Business,
oui.
la femme frontale directe, et en même temps la femme fleur, la femme fruit. La fonctionnaire t'annonce: notre gouvernement veut rouvrir le puits et le contrôler. Alors tu ne réagis pas, mais imperceptiblement quelque chose s'est fissuré.
Ah oui.
Et tu développes une relation silencieuse avec le vide du puits.
Oui,
tu lui parles sans mots et le vide ne répond pas.
Ah.
Mais par moments, il semble respirer.
Ah,
tu poses
bon.
Alors ta première question: pourquoi ? Et après on se doute, il y en aura beaucoup d'autres. Ça s'appelle le détroit intérieur, celle qui veillait sur l'eau absente. Tu vas cartonner.
Moi
je veux voir ça.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
En cas d'urgence, ils peuvent appeler RMC. Il y aura toujours quelqu'un qui sera ravi de leur parler à notre standard. Ah, un auditeur qui nous appelle. Salut et bienvenue à la libre antenne d'RMC Gold, la radio musicale d'RMC pour tous les fans de Gold. On vient d'écouter à l'instant Capitaine Abandonné, je crois. Et tu voulais réagir à cette chanson, cher auditeur.
Non, pas du tout, mon bateau est coincé dans le détroit d'Hormuz et tout le monde s'en fout.
Mais non, attends, t'es vraiment un capitaine abandonné? C'est dingue, alors on va se la remettre.
Capitaine abandonné.
Qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez appeler les secours, prévenir l'armée.
Attends, tu peux nous en dire un peu plus sur la chanson? Comment tu l'as composée, capitaine abandonné?
Mais je suis pas musicien, merde, je suis capitaine d'un pétrolier, j'appelle du détroit d'Hormuz.
Et t'es en tournée au Moyen-Orient avec Desireless, c'est génial.
Je peux parler à un militaire.
Bon, on te bascule sur RMC. RMC, bonjour, bienvenue dans Apolline Matin.
Bonjour, je suis capitaine de pétrolier.
Eh ben bravo, vous avez gagné un plein d'essence. Bon, appelez ailleurs les mecs. C'est plus prudent. Bon courage.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Arnaud de manche qu'on retrouve lundi en direct sur RMC et RMC Story. Il est 8h20 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, ce sera le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Par ailleurs, député des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin est rapporteur du budget. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport d'ailleurs entre budget et situation extrêmement critique, hein, extrêmement critique, vous le savez, à l'hôpital. Ça craque depuis hier. Et pourtant, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron dit on s'est adapté. Vous êtes nombreux à réagir.
Exactement, Corinne, par exemple, qui nous dit en colère et stressée parce que c'est la Macronie qui est au gouvernement et comme d'habitude, on ne gère rien quand on voit les images des hôpitaux qui sont obligés de mettre des couvertures de survie aux fenêtres. On a appris qu'il y avait d'autres qui sont décédés parfois à cause de la chaleur. Oui, ça fait peur. Franchement, je serais présidente de la République, j'aurais honte, nous dit Corinne sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. L'impréparation de l'État, nous dit ce message, mais comme d'habitude, je dirais, ceux qui osent venir sur les plateaux pour dire que ce qui a été fait pendant 9 ans, ce qu'ils ont mis en place, etc. Les hôpitaux, les écoles, j'en passe, vraiment, je suis dépité, nous dit cet autre message.
Et vos messages donc sur RMC, vous savez, le standard, vous êtes toujours ouvert au 32-16. Il est 8h22, on se retrouve dans un instant sur RMC et BFM TV avec mon invité, donc le patron des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes professeur de médecine, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, à quelques mètres de ce studio. Vous êtes également député LR des Hauts-de-Seine et rapporteur du budget. Mais ce matin, c'est d'abord aux médecins que je m'adresse. Vous avez entendu les propos du préfet de police de Paris hier soir. Les hôpitaux parisiens sont saturés, dit-il. La situation est inquiétante, la pression monte. Que voyez-vous aux urgences à Pompidou ?
Depuis lundi, le flux de patients ne baisse pas et il a beaucoup augmenté hier. Il y a eu une pointe hier. J'y étais jusqu'à 22h hier. J'y étais à 7h ce matin et j'y retourne après votre interview. Les couloirs sont pleins de patients plutôt âgés, mais ça commence en réalité à 50, 60 ans désormais. Des gens avec des hyperthermies très, très fortes. Les SDF aussi qui arrivent avec 42 de température. On a des capacités d'hospitalisation qui sont saturées, pour pas dire dépassées. Dans mon service, j'ai 20 lits d'hospitalisation habituellement, en plus du flux des patients des urgences. Et ce matin, nous avons 53 patients hospitalisés. Donc c'est vous dire qu'on est dans une situation de... Quand on dit saturation, c'est
mais
plus que ça.
Mais ça veut dire qu'ils sont où? Ils sont où les 33 entre eux?
Ils sont dans des brancards, dans les couloirs, ou sur des lits que nous sommes allés chercher dans des chambres qui étaient désaffectées de personnel dans les étages. Et on essaye de les, entre guillemets, caser, hospitaliser où on peut. Donc c'est une situation extrêmement grave, extrêmement grave. On n'a pas eu de mort cette nuit, mais on a des patients qui sont dans un état très précaire. Moi, ma thèse, enfin c'est pas ma thèse, tout le monde l'observe, c'est que probablement les gens qui meurent avant d'arriver à l'hôpital. Les pompiers...
Votre inquiétude, c'est ce qu'on ne voit pas.
Alors d'abord, mon inquiétude, c'est ce que je vis actuellement, parce que déjà aux urgences, nous avons du mal à avaler les flux. Il y avait 20 patients qui n'avaient toujours pas été vus à 7h du matin. Ça, c'est ma première inquiétude. Et puis la deuxième inquiétude, vous avez raison, c'est que dans les jours qui viennent, on va découvrir probablement à leur domicile des gens qui sont morts tout seuls. Quelle société qui laisse les gens mourir tout seuls? Entre nous, c'est quand même assez fou, et qui sont très déshydratés. Donc oui, on a un pic de mortalité très probablement là depuis hier. Il faudrait regarder les certificats de décès, mais ça doit être possible de les voir dès aujourd'hui. Mais aujourd'hui et demain et après-demain, on va probablement avoir un afflux supplémentaire.
Un afflux supplémentaire, des services saturés. Hier, le chef du SAMU disait qu'il avait eu connaissance également de personnes qui sont décédées, une femme au moins, non pas de pathologie, mais de l'extrême chaleur à l'intérieur même de chambres d'hôpitaux. C'est pas votre cas, je crois, non, à l'hôpital Georges Pompidou, mais de nombreux hôpitaux de France non seulement font face à cette saturation, mais avec des moyens et dans des chambres qui ne sont pas rafraîchis.
Alors, j'ai la chance dans mon service des urgences d'avoir de la climatisation. Ce n'est pas le cas de toutes les chambres de l'hôpital, mais vous savez, la plupart des hôpitaux français sont des vieux hôpitaux, des bâtiments parfois même du début du XXe siècle, même avant pour certains, non climatisés. Et puis, il y a eu toute cette mode absolument délirante depuis 25 ans où dès que vous déposiez un permis de construire, il fallait pas de climatisation. C'était le truc, la climatisation nuit au climat. Enfin, elle nuit au climat, elle nuit d'abord à la santé, l'absence de climatisation. Donc oui, il y a beaucoup d'hôpitaux français où il n'y a pas de clim. Mais il y a beaucoup de crèches où il n'y a pas de clim. Il y a beaucoup d'écoles, la plupart, où il n'y a pas de clim. Il y a beaucoup de logements où il n'y a pas de clim. Et donc ça, c'est une des leçons qu'il faudra tirer. La climatisation.
La question évidemment de l'extrême chaleur, des risques que prennent les uns et les autres. Première décision prise par le préfet hier, l'interdiction de consommation d'alcool dans la capitale aujourd'hui à partir de midi et de vente à emporter à partir de 18h, c'était nécessaire?
Ben, c'était indispensable, mais je dis au préfet de police qu'il a aussi deux autres décisions à prendre.
Lesquelles?
Il y a Solidez, qui est une grande manifestation musicale, vendredi, samedi, dimanche, festival de musique en plein air, sous le cagnard. Il y a également la marche des fiertés à Paris, samedi. Franchement, c'est totalement déraisonnable, compte tenu de l'état actuel de nos urgences et de nos hôpitaux, où on est déjà sous l'eau, où on a du mal à prendre en charge les patients qui nous arrivent déjà. On va rajouter deux risques supplémentaires. Je pense que tous les gens qui vont participer à la marche des fiertés et à Solidez vont évidemment comprendre que c'est de l'intérêt général de ne pas faire ces deux fêtes. Ne venez pas en plus ajouter un risque à un risque qui est déjà avéré.
Vous demandez au préfet de police de Paris d'interdire la tenue de ces, d'annuler ces deux manifestations.
Écoutez, c'est deux sujets qu'on évoque depuis 48 heures avec les autorités. Je dis très clairement au préfet de police de Paris, ce n'est pas raisonnable de maintenir ni Solidez, ni la marche de fierté. Je conçois toutes les difficultés d'annuler tout ça.
La décision a été prise à Lyon déjà. À Lyon, la marche de fierté a été annulée.
Et ils ont raison. Bah, le préfet de Lyon a été bien éclairé. Mais il n'y a pas que la marche de fierté, il y a Solidez, hein, trois jours.
Solidez, trois jours. Et dans l'état actuel, effectivement, des urgences, qu'est-ce que vous anticipez des jours qui viennent? On a dit, depuis le début de cette crise, que les corps étaient mis à rude épreuve, que l'incapacité à se rafraîchir la nuit et la nuit dernière a encore été insoutenable, avait des conséquences parfois en décalé. Qu'est-ce qu'il faut anticiper?
On reçoit des patients qui ont 42 degrés de température. En gros, les deux cibles actuellement, ce sont les patients âgés, parce qu'ils restent chez eux, personne s'occupe d'eux, ils sont abandonnés, les malheureux, et puis un jour, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent? On les retrouve dans un état terrible. Donc ça signifie d'ailleurs que la première leçon, chacun a sa part du travail à faire. Hein. Les gouvernants doivent gouverner, les soignants soigner, mais vous, ceux qui nous écoutent, dès que l'émission est finie, il faut qu'ils se lèvent, ils vont taper à la porte du voisin, et ils vont demander si ça va. Ils vont lui apporter une bouteille d'eau fraîche. Et quand vous voyez un SDF dans la rue, vous prenez une bouteille d'eau glacée et vous lui donnez. C'est ça qu'il faut faire. Chacun peut jouer un rôle.
Chacun peut jouer un rôle. Et il ne faut pas oublier, et c'est très important le message que vous faites passer ce matin, c'est aussi la question d'aller s'occuper de ses voisins, de ceux qui sont seuls,
et le SDF,
des plus âgés, et des SDF,
vous
et des
leur SDF donnez à qui une on bouteille d'eau glacée. Voilà. Ça, si on fait pas ça, honnêtement, on est dans une société où la fraternité ne veut rien dire. Moi, j'en peux plus de cette société de gens égoïstes. Donc, allez-y, vous avez chacun un rôle à jouer. Et puis il y a un deuxième sujet, bien entendu, c'est que on va trouver dans les jours qui viennent des gens qui sont chez eux et qui probablement sont en train de mourir chez eux. Donc vous pouvez réduire la mortalité en allant dès 9h de la taper chez le voisin. Le risque, il est là, bien entendu. Alors je vous parle même pas du fait que les hôpitaux doivent annuler les patients qui sont programmés.
Ça, il y a des annulations déjà aujourd'hui.
Ah bah, s'il y en a pas, oui, il y en a bien sûr.
Il y en a, vous l'avez constaté.
Et il faut probablement continuer à en faire beaucoup plus parce que je regarde les urgences. Vous avez compris les chiffres que je vous donnais. Bah, il faut que je trouve, ne serait-ce que pour l'hôpital Pompidou, mais c'est pareil partout en fait en Île-de-France, une trentaine de lits d'hospitalisation. Où est-ce qu'on les trouve ces lits? On va pas les créer comme ça. On les trouve tout simplement parce qu'on annule des patients qui devaient venir. Vraiment, ce qui nous attend, c'est probablement, il y a des morts qu'on n'a pas encore identifiés, qui sont chez eux, comme je vous le dis, mais il est probable que le pic de mortalité qui a dû avoir lieu hier, bien, il va se poursuivre pendant 2-3 jours minimum.
Ce sont des, vous le disiez, des gens qui ont des décompensations parfois de maladies chroniques. Ce sont également des arrêts cardiaques supplémentaires, ouais, y compris ouais, chez des plus jeunes qui se mettent dans des situations de risque.
Alors évidemment, le jeune qui se met à faire du sport à 30 ans, il faut lui dire d'arrêter. Il nuit à sa santé et il nous pose un problème. Mais quand je dis des patients âgés, il y a beaucoup de patients âgés, beaucoup, c'est évident. Mais il y a aussi des gens qui sont relativement peu âgés. Enfin, on a des cinquantenaires aujourd'hui aux urgences, qui souffrent de décompensation de leur maladie de base. Ils ont une insuffisance cardiaque, une maladie respiratoire qui décompense. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de maladie de base, tout simplement qui sont en bonne santé, mais qui, quand ils ont 42 degrés de température, font un coma, font des convulsions. Et nous avons des gens qui, probablement, peuvent mourir uniquement d'hyperthermie. C'est-à-dire, il faut bien que les gens comprennent que la chaleur en elle-même, elle tue. C'est pas parce qu'on n'a pas de diabète, on n'a pas d'insuffisance cardiaque, qu'on ne meurt pas d'hyperthermie. Si vous vous retrouvez en plein soleil et que votre température corporelle monte à 42 degrés et que vous ne faites rien, vous allez mourir.
Philippe Juvin, réquisition d'un certain nombre d'étudiants en médecine, c'est une bonne chose?
Moi, je prends tout. Les étudiants en médecine, les postiers, tout est bon à prendre. Vous voyez, je suis assez facile. J'ai simplement besoin que les autorités prennent les bonnes décisions sur les grands rassemblements. Donc, je vous ai parlé de Solidaise et de la marche des fiertés. J'ai besoin que chacun aille taper à la porte du voisin et à donner leur donner de l'eau ainsi qu'au SDF. Et puis, nous avons besoin, évidemment, à très court terme, de moyens supplémentaires, de bonne volonté. J'ai rappelé tous les médecins qui ont un jour travaillé dans le service pour qu'ils viennent nous donner un coup de main.
Et ils ont répondu à l'appel?
Un certain nombre ont répondu dès ce matin, 7h, dès le premier message. Ceux qui m'écoutent, qui n'hésitent pas à m'appeler, on a besoin d'eux.
Ça, c'est les besoins humains. Il y a aussi les besoins matériels. On parlait là à l'instant de la question de la climatisation, mais même à très court terme, est-ce que vous avez suffisamment de matériel nécessaire? Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait rafraîchir ceux qui arrivent. On l'a vu sur BFM TV l'autre jour, ces fameux lits dans lesquels on met des glaçons pour rafraîchir de manière immédiate et franche des corps en surchauffe. Est-ce que ça, vous avez les moyens? Est-ce que ça, vous les avez?
Quand quelqu'un arrive à 42 degrés, on le déshabille complètement, on le met dans une baignoire et on lui met de l'eau avec des glaçons pour avoir de l'eau à 5-10 degrés. C'est la seule condition qui fait qu'à 42, il va passer, il va diminuer jusqu'à 37. C'est comme ça qu'on sauve les gens aujourd'hui. Et dans les voitures de pompiers, dans les ambulances de pompiers, dans les premiers secours, et dans la protection civile, il y a des baignoires, On en a deux à Pompidou qui marchent full time. Donc il y a un sujet de logistique pour avoir des glaçons. Donc là, on en a. Il faut que ce sujet soit absolument verrouillé. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture de glaçons. Il ne manquerait plus que ça. Et puis, j'appelle également tous ceux qui vendent des climatiseurs à se rapprocher de l'EHPAD à côté de chez eux ou de l'hôpital à côté de chez eux pour voir s'ils ne peuvent pas les aider à en fournir.
Professeur Philippe Juvin, il y a aussi l'été qui vient. Nous ne sommes qu'en juin. Aujourd'hui, vous avez la main-d'œuvre au max, c'est-à-dire que les gens ne sont pas partis en congé, les infirmières, les infirmiers, les médecins, il n'y a plus... il y a les équipes, j'allais dire, normalement, dans leurs effectifs globaux. Est-ce que vous redoutez les futures canicules, s'il y en a, et on anticipe déjà qu'il y en ait, dans les semaines ou dans les deux mois qui viennent?
Il est sûr qu'en hiver, on a l'épidémie de grippe qui arrive quand il fait froid et quand les gens sont en vacances d'hiver, et les canicules, ça arrive plutôt quand les gens sont en vacances d'été. Donc c'est sûr que en été et en hiver, nous avons peu de marge de manœuvre. Le problème, c'est notre capacité à réagir. Réagir en termes de personnel médical, mais aussi paramédical. C'est une chose d'avoir des médecins. Mais si vous n'avez pas d'infirmière pour ouvrir des lits d'hospitalisation, en fait, les lits restent fermés. Donc c'est vrai qu'il y a la question de la climatisation, de la solidarité intergénérationnelle, mais il y a cette question très, 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 très claire. Moi, ça fait des années que je vous dis une chose très simple, c'est qu'on ne forme pas suffisamment de personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre. Pour vous donner un exemple, les Anglais ont doublé le numerus clausus, doublé. Ils ont formé deux fois plus de médecins. Nous, on ne l'a pas fait, on a fait plus de
15%. On l'a rouvert, mais enfin...
15%
voilà,
en plus. 15% et on s'est dit, c'est formidable, on est des champions. Non, et ça, on est des champions. Mais il faut doubler le numerus clausus. En fait, la question qui se pose en France en matière de santé, c'est la même qu'en question budgétaire. C'est l'absence de marge de manœuvre.
C'est ce que j'allais vous dire, et j'y viens aussi à cette question du non-investissement ou de tout ce qui craque. Aujourd'hui, vous nous parlez des urgences où vous êtes obligé, j'allais dire presque, de faire des tris. Alors aujourd'hui, ce sont des opérations que vous pouvez décaler pour pouvoir libérer des lits. Mais au fond, le débat la semaine dernière sur la justice, il avait cette même toile de fond qui est la question de la saturation et des choix qui sont faits et parfois dans l'urgence. Philippe Juvin, vous êtes également rapporteur du budget. Quand vous entendez Emmanuel Macron hier soir qui dit « on a quand même, on s'est adapté », est-ce que vous estimez que c'est le cas?
On s'est adapté à quoi?
Au réchauffement climatique, dit-il, on a fait en sorte de s'adapter. Non, vous avez l'air de vous dire pas du tout.
Vous savez, je suis un homme de science, hein, je regarde les choses. Est-ce que tous nos hôpitaux sont climatisés? Non. Est-ce que les écoles sont climatisées? Est-ce que les crèches le sont? Est-ce que les EHPAD le sont? Est-ce que les logements le sont? Non.
Donc on ne peut pas parler.
Je crois même que jusqu'à une date très récente, le fonds vert qui est ce fonds qui permet de financer la transition écologique. Je crois que le fonds vert excluait le financement de
il
la climatisation.
Il l'exclut toujours, je vous le confirme. Je recevais hier la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon qui s'en indignait et disait qu'à titre personnel, elle était favorable à l'idée effectivement que ce fonds puisse également être ouvert à la climatisation des écoles notamment ou des EHPAD. Mais au moment où l'on se parle, ce fonds vert ne peut pas être utilisé s'il y a climatisation par les collectivités locales. Donc.
C'est une absurdité. Maud Bréjon est quelqu'un de très grande qualité que je connais, c'est un très bon ministre. Je dis simplement que les ministres ne sont pas là pour commenter l'actualité, ils sont là pour la faire. Donc on vient de s'apercevoir de cette idiotie que le fonds vert ne pouvait pas financer la climatisation dont nous avons besoin pour sauver des vies. Dans ces cas-là, on change les choses. Ou alors, ça ne sert à rien d'être élu, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, on ne s'est pas adapté. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, le nouveau gouverneur de la Banque de France a alerté, la Cour des comptes alerte à nouveau hier soir, alerte rouge sur les finances de la France, la dette qui ne fait qu'augmenter, l'objectif de 5% sera vraisemblablement pas du tout atteint cette année. Avons-nous les moyens, là, vous êtes rapporteur du budget, de financer tous ces services publics qui craquent?
Non, puisque là aussi nous n'avons plus de marge de manœuvre et le premier budget de l'État va devenir la charge de la dette. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre plusieurs dizaines de milliards tous les ans dans les hôpitaux, les écoles, la recherche, le futur, eh bien nous les donnons à ceux qui nous ont prêté, à des fonds de pension américains par exemple, qui nous ont prêté de l'argent. En fait, nous sommes tenus à la gorge par la dette qui est désormais hors de contrôle. La Cour des comptes, la Commission européenne considère que le déficit en fin 2027 sera de 5,7% et probablement on sera au-dessus de 6%. Pour que les gens comprennent, notre engagement il y a un an, c'était qu'au même moment fin 2027, nous aurions dû être à 4,1%. Tous ces chiffres ne veulent peut-être rien dire pour les gens. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la dette est hors de contrôle.
Elle est hors de contrôle.
Ouais. Et le risque, désormais, c'est que les gens qui nous prêtent de l'argent exigent des taux de plus en plus importants parce que leur confiance s'érode. Et c'est valable pour le budget de l'État comme pour le budget de la Sécurité sociale. C'est même plus grave pour le budget de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle l'ACOS, avec un risque de liquidité, c'est-à-dire de gens qui nous disent finalement on vous prête plus. Mais qu'on vous dise on ne vous prête plus ou on vous prête à des taux très importants, ça revient quasiment au même. Que les gens comprennent que comme les décisions ne sont pas prises, et comme il y a des gens qui continuent à dire mais il n'y a pas de sujet de dette, il y a quand même des gens qui racontent cette petite histoire pour enfants, le premier budget du pays désormais, c'est de payer ses dettes. Ben, quand vous êtes dans un ménage où la première dépense, c'est de payer la dette, vous comprenez bien que vous n'êtes pas en état de faire aucun investissement.
Les intérêts de la dette année, ça sera déjà plus rien que les intérêts de la dette, plus que le budget de l'éducation nationale. Bien une sûr, question d'ailleurs sur sûr. Les jeunes, Philippe Juvin. Dans 15 minutes, c'est le début du brevet, les épreuves du brevet donc pour tous les collégiens de France. Finalement, ces épreuves ont été maintenues, avec certes des pauses fraîcheurs. Est-ce que ça, vous pensez qu'on peut faire face? Ce n'était pas une erreur?
Non mais entendons-nous, le gouvernement n'est pas responsable de tout, il n'est pas responsable de la chaleur. Ce que je dis simplement, c'est que d'abord il a raison que l'État continue à fonctionner, on ne va pas aussi arrêter le brevet, mais il faut maintenant prendre la décision ferme de se dire, désormais on a compris qu'on s'était trompé par exemple sur la climatisation, et on y va, vous voyez, il faut tirer des leçons. Il faut passer d'une France qui se lamente à une France qui se tire des leçons. Une des leçons, c'est que nous devons nous redonner des marges de manœuvre en tout, budgétaire, mais aussi en matière de santé. Climatisons les hôpitaux, climatisons les écoles, et arrêtons de chercher la responsabilité des années précédentes.
Je précise que vous êtes vous-même maire également.
J'ai été
vous l'avez été, effectivement, parce qu'avec le cumul de mandats, vous ne pouvez pas avoir les deux, mais vous avez longtemps été maire. Philippe Juvin, une question aussi sur nos plus âgés. On a parlé de ceux qui sont chez eux, il y a ceux qui sont en EHPAD. Est-ce que vous avez des remontées également là-dessus?
Nous avons beaucoup de patients qui nous sont transférés des EHPAD où il fait très chaud quand elles ne sont pas climatisées à chez nous, qui sont aussi en très mauvais état. Moi, je vous dis, je suis accablé par cette société en réalité qui se fiche de ses vieux. Pardon, le mot vieux est un mot qu'on utilise dans notre jargon, il n'a rien de péjoratif médical. Mais on peut pas faire comme si finalement la société n'est qu'une société de droits individuels avec que des jeunes, etc. Je sortais du théâtre avec ma mère avant qu'elle ne décède il y a quelques années, elle me dit « t'as pas vu ?» Regarde, c'était au théâtre à Paris. C'était une journée sympa d'été où les terrasses étaient pleines. Je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, bah, regarde les terrasses. Où sont les vieux? M'a-t-elle dit, c'était sa phrase. Où sont les vieux? En fait, les vieux, on les planque, on les cache, on ne s'en occupe pas et on les laisse abandonner. Donc, je répète, les gens, ils écoutent votre émission. Une fois que c'est fini, parce que c'est une bonne émission, ils ne partent pas avant. Ils vont taper à la porte de leur voisin ou de leur voisine et ils leur demandent si elle va bien.
Et ils apportent une bouteille d'eau et notamment des bouteilles d'eau très fraîches.
Très fraîches.
Au SDF, le disiez-vous. Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'avoir été avec nous ce matin. Professeur de médecine, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous avez dit y retourner juste après l'émission. Vous êtes également député LR des Hauts-de-Seine. Merci à vous.
Merci
vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, il est 8h47, vous restez bien sur RMC à suivre une spéciale Coupe du Monde avec le match France-Norvège ce soir bien sûr et déjà les premiers bilans du Mondial, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51, vous êtes sur RMC, le Mondial de Virginie, c'est avec vous. Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, les toutes dernières infos avant le dernier match de poule des Bleus ce soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Edgar Grolot, journaliste RMC Sport. Bonjour Edgar.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Edgar, vous êtes à Boston. La phase de groupe de la Coupe du Monde touche déjà à sa fin. Le début des 16e de finale, c'est à partir de dimanche. Et alors c'est l'heure d'un premier bilan déjà Edgar. On avait beaucoup de craintes autour de cette Coupe du Monde, sur l'ambiance, sur les prix. Deux semaines après le match d'ouverture, quelle est la réalité sur place ?
D'abord, ce qu'on ressent ici, c'est que l'ambiance est drastiquement différente d'une ville à une autre. Jamais un mondial n'avait été disputé sur un continent entier comme ça. Et donc forcément, la fameuse ambiance Coupe du Monde, eh bien elle varie. Je vous donne un exemple. À Atlanta, le stade est à 10 minutes à pied du downtown. Dans ce centre-ville, il y a une fan zone de 15 000 personnes qui est souvent pleine à craquer. On voit des maillots de foot partout. Les locaux sont à fond dans la Coupe du Monde. Ils ne s'en fichent pas du tout du soccer, contrairement aux idées reçues. Mais en revanche, à Dallas, tout se fait en voiture. Les supporters sont éparpillés un peu partout. Le stade est loin. Quand je suis allé à la fan zone, elle était quasi vide parce qu'elle est très excentrée. Le journaliste américain Sanjay Sujantakumar, qui travaille pour le Guardian, nous a expliqué le phénomène.
Ça dépend de la ville. Dans certaines villes, c'est plus dur d'accéder au stade. Il n'y a pas de fan zone comme à New York, par exemple. Il n'y a pas de barbecue autour des stades. Donc là-bas, c'est différent que dans des villes plus accessibles où il y a une atmosphère de petites villes comme à Kansas City ou Philadelphie. Dans tous les cas, les bars et les restaurants vont être pleins. Il y a la fièvre de la Coupe du Monde, mais c'est différent de d'habitude.
Bon, et s'il y a bien un endroit où la fièvre de la Coupe du Monde, comme il dit, a bien pris, c'est au Mexique. J'ai eu la chance d'être à Mexico pour le match d'ouverture et la passion des gens pour le foot était palpable à chaque coin de rue.
Ça dépend de la ville. Dans certaines villes, c'est plus dur d'accéder au stade. Il n'y a pas de fan zone comme à New York, par exemple. Il n'y a pas de barbecue autour des stades. Donc là-bas, c'est différent que dans des villes plus accessibles où il y a une atmosphère de petites villes comme à Kansas City ou Philadelphie. Dans tous les cas, les bars et les restaurants vont être pleins. Il y a la fièvre de la Coupe du Monde, mais c'est différent de d'habitude.
Alors Edgar, on avait peur des stades vides avant cette Coupe du Monde, finalement c'est pas du tout le cas.
Bien au contraire même, puisque cette Coupe du Monde est en train de battre tous les records. Selon la FIFA, il y a plus de 3,6 millions de spectateurs qui ont assisté à des matchs au stade pour l'instant, ce qui en fait déjà le mondial avec le plus d'affluence de tous les temps. L'affluence moyenne par match est de plus de 64 000 spectateurs.
En revanche Edgar, il y a une autre crainte qui s'est avérée très juste, celle d'avoir des billets à des prix exorbitants.
Oui, beaucoup de passionnés n'ont pas accès au stade à cause des prix. C'est souvent le cas au Mexique, notamment, où le pouvoir d'achat est bien moins important qu'aux États-Unis. Un supporter m'a dit qu'il avait payé l'équivalent de plus de 2 200 € pour voir un match de son équipe, alors qu'en 2018, en Russie, il avait payé moins de 300 €. C'est un sacrifice financier énorme pour lui. Ce problème de prix fait beaucoup parler au Mexique et l'ancien international mexicain Tato Noriega regrette énormément la situation.
Il y a un certain mécontentement, c'est un sujet récurrent dans toutes les réunions sociales, les dîners entre amis, les discussions familiales, la difficulté que cela représente pour des millions de personnes qui, par le passé, trouvaient une façon de faire un sacrifice économique pour pouvoir assister au moins à un match. Aujourd'hui, ce sacrifice n'est plus possible à cause des prix élevés qui rendent la Coupe du Monde un peu élitiste.
Et non tenir problème avec eux, c'est que si, c'est un thème récurrent.
Mais ce que vous nous dites ce matin, Edgar, c'est que le souci des prix exorbitants, ça ne concerne pas que les billets pour les matchs.
Oui, et ça, certains supporters français qu'on a croisés l'ont appris à leurs dépens.
Franchement, les bouteilles d'eau à 7 dollars et les bières, c'était à peu près 13 et 14 dollars. Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Ma globalité, j'avais préparé 10 000 euros. Là, je suis à 2 000 pour l'instant.
C'est le prix des tarifs pour tout ce qui est transport pour aller au stade. C'est des montants qui sont exorbitants pour un sport populaire qu'est le football. C'est pas très acceptable.
Franchement. Edgar, bon, alors pour l'instant, le bilan, du coup, il est plutôt positif ou négatif ?
Eh bien, il est très positif pour la FIFA, très positif pour ceux qui ont les moyens de se rendre dans les magnifiques stades de cette Coupe du Monde, très positif aussi pour ceux dont l'autorisation d'entrer sur le territoire américain a été validée. Le bilan est beaucoup moins bon pour certains passionnés écartés de l'événement par faute de moyens ou de visa. Bref, c'est tout ce qu'on pouvait attendre d'une Coupe du Monde aux États-Unis en 2026.
Edgar Grollo, journaliste RMC Sport, l'un de nos 40 envoyés spéciaux aux États-Unis pendant le Mondial. Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. France-Norvège, c'est ce soir à 21h.
RMC, le Mondial de Virginie.
Dernier match de poule des Bleus, donc rencontre à suivre évidemment sur RMC, France-Norvège, et ça se passe à Boston.
C'est qu'en ce moment on a une petite obsession pour la météo, canicule ici, orageuse dans la capitale du Massachusetts. Je ne pensais pas que tout le monde s'y mettrait, là, c'est
elle est magnifique, cette chanson.
Bah oui. Donc, il y a un risque d'orage ce soir encore autour du stade de la banlieue de Boston. Alors, avant de se demander si les Bleus vont gagner, on peut peut-être déjà espérer que la foudre ne va pas se déclencher à 13 km à la ronde. Hein. Sinon, on va recommencer comme ce qu'on a vu contre l'Irak.
Et alors, vous dites que les Bleus jouent à domicile ce soir?
Bah, Boston, déjà, c'est là qu'est leur camp de base. Mais le stade lui-même, le Gillette Stadium de Foxborough, est un peu français. C'est l'entreprise française Tarkett qui a installé la pelouse. C'est pas si anodin que ça, parce que c'est cette entreprise qui s'occupe des gazons de Clairefontaine, pelouse sur laquelle les Bleus s'entraînent en France. Donc oui, on joue à domicile.
On joue à domicile. À domicile et avec beaucoup de supporters derrière les Bleus.
Ben, on aura même des supporters tout nouveaux. Tous les Scandinaves, sauf les Norvégiens, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportent pas la façon dont les Norvégiens encouragent leur équipe avec leur fameux Viking Row. Voilà, les fans qui miment les rameurs des drakkars vikings au rythme de tambour en poussant des cris. Les joueurs norvégiens le font, même les députés norvégiens s'y mettent. C'est efficace, mais ça plaît pas à tout le monde parce qu'il y en a qui accusent les Norvégiens d'avoir copié ce que faisaient bien avant eux les Islandais. Et puis bon, on le reconnaît, en Suède, au Danemark, c'est surtout de la jalousie entre pays voisins. Donc allez, tous les jaloux avec nous.
Moi, on prend tous les Scandinaves, que les Suédois, les Danois soutiennent l'équipe de France ce soir. France-Norvège à 21h à suivre en direct et en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, fallait-il le rappeler. L'avant-match, c'est dès 18h. L'after-foot, c'est jusqu'à 1h du matin, voire plus, hein, s'il y a des décalages à cause de l'orage, etc. On suivra évidemment. Merci Virginie Fulpin. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain Marchal ? Bonjour Alain.
On bien reviendra sur le naufrage des pouvoirs publics à propos de la climatisation. On a maintenant les écologistes qui estiment qu'il faut un plan clim prioritaire à l'hôpital. On regardera précisément aujourd'hui aussi pourquoi les magistrats sont en colère et appellent à une journée justice morte depuis qu'il y a eu des sanctions. Et nous recevrons Marion Maréchal dans les GG. Allez, à tout de suite au 32-16.